Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
C'est un plaisir de vous accompagner dans ce grand journal, l'actualité avec à 20h l'allocution d'Emmanuel Macron que nous suivrons en direct avec les réactions de nos invités, leurs commentaires, le débat d'idées jusqu'à 21h, donc édition spéciale ce soir sur Europe 1. Et à la une de l'actualité, donc les espoirs d'un vaccin anti-Covid, des millions de doses commandées par l'Europe au groupe AstraZeneca. Je reçois ce soir le patron France sur notre antenne. 18h15, le gouvernement veut supprimer le mot race de la Constitution et lance une nouvelle campagne de testing dans l'entreprise. On en parle. 18h40, des pédiatres revendiquent de leur côté un retour massif des élèves à l'école. J'accueillerai ce soir Robert Cohen, qui rassure d'ailleurs depuis le début de la crise sur la santé des enfants. 18h50, une chanson dans la tête pour les nostalgiques de Johnny.
Retiens la nuit pour nous deux. Jusqu'à la fin du monde.
Johnny Hallyday qui aurait 77 ans demain, le 15 juin. Fabien Lecoeuvre nous raconte les femmes de sa vie en chanson et cette idylle de 50 ans révélée avec une certaine Lady Lucille. 19h15, la gestion de crise sanitaire, le déconfinement acte 3. Analyse ce soir d'un ancien directeur général de la santé de retour d'une mission à Mayotte, William Dab. Et puis 19h30 pour le grand débrief de l'actu. Nous serons ce soir avec la sénatrice Laurence Rossignol, le député dissident Aurélien Taché et la journaliste spécialiste de communication politique, Laetitia Krupa. Voilà une partie de ce qui vous attend ce soir dans ce grand journal. Et d'abord les infos car il est 18h. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h, merci d'avoir choisi Europe 1.
J'attends bien sûr que le président de la République rappelle que les enfants qui sont inscrits à l'école ont une obligation de présence à l'école. Il faut que nos enfants, nos élèves retournent en classe.
Beaucoup d'attentes pour l'allocution d'Emmanuel Macron dans 2 heures maintenant. Des enseignants qui veulent le retour des élèves en classe, des restaurateurs qui veulent qu'on accélère le déconfinement, mais aussi des policiers en colère.
Aux États-Unis, la démission de la chef de police d'Atlanta après la mort d'un jeune noir américain lors d'une interpellation. Démission justifiée par la maire de la ville.
Erika Shields a présenté sa démission immédiate de son poste de chef de police pour que notre ville puisse avancer en urgence et reconstruire la confiance dont les populations ont désespérément besoin.
Les Européens qui sécurisent l'accès à un possible vaccin contre le coronavirus, accord signé avec un groupe pharmaceutique par 4 pays dans la France pour avoir 300 millions de doses.
Et puis une vente aux enchères des vins de Bordeaux pour dire merci aux soignants.
Il y a des lots à tous les niveaux de prix et avec plutôt une volonté de dire on veut aider les personnes soignantes mais pas que les médecins ou les chercheurs. Partir des gens qui sont au nettoyage jusqu'au médecin.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2 mois qu'il ne s'est pas adressé aux Français directement. Et c'est donc ce soir à 20h, Fabienne, qu'Emmanuel Macron va prendre la parole depuis l'Élysée.
Une intervention, on vous le dit, alors que beaucoup restaurateurs, chefs d'entreprise veulent que le déconfinement aille plus vite. Il y a aussi la colère des policiers, les manifestations en écho à la mort de George Floyd. Bref, beaucoup de dossiers sensibles sur lesquels Emmanuel Macron est attendu, Adrien Beck.
Oui, c'est vrai que ces derniers jours, Emmanuel Macron fait face à un nouveau front, les manifestations contre le racisme, auxquelles s'ajoute la colère des policiers qui s'estiment lâchés par le gouvernement. Difficile pour le chef de l'État de ne pas y revenir, lui qui était jusque-là resté silencieux sur le sujet. Il devrait, dit son entourage, évoquer démocratie et valeurs, d'autant que certains ministres proches d'Emmanuel Macron ont plaidé dans la presse, notamment pour supprimer le mot « race » de la Constitution ou encore pour réfléchir aux statistiques ethniques. L'autre sujet, évidemment, sera le déconfinement avec cette dernière phase prévue au 22 juin. Alors, va-t-on accélérer, vu la situation sanitaire positive ? Le président devrait répondre aux restaurateurs d'Île-de-France qui n'ont toujours pas rouvert leur salle. Il est attendu aussi sur les règles sanitaires à l'école. Enfin, les sujets économiques seront aussi au menu, mais pas encore les axes de la dernière partie du quinquennat. Pour cela, il faudra attendre le début du mois de juillet.
Et vous l'évoquiez, Adrien Beck, parmi ceux qui seront très attentifs à ce que dira dans 2 heures Emmanuel Macron, il y a les enseignants, il y a aussi le grand spécialiste des sciences de l'éducation, Philippe Mérieux. Pour lui, alors que seul un quart des élèves en primaire ont remis les pieds à l'école, il faut que le président soit clair sur l'obligation de présence dans les établissements.
J'attends bien sûr que le président de la République rappelle que les enfants qui sont inscrits à l'école ont une obligation de présence à l'école. Là, nous avons joué sur le volontariat, mais je ne voudrais pas que ce volontariat refasse surface en septembre. Nous savons bien que ce sont les élèves qui ont le plus besoin de l'école qui y retournent le moins, parce que les familles sont inquiètes, parce qu'elles sont plus éloignées de la culture scolaire. Il faut que nos enfants, nos élèves retournent en classe. À la fois d'ailleurs pour des raisons scolaires, pour se remettre en jambes dans le programme et dans les activités scolaires, mais aussi parce que cet isolement d'un certain nombre d'enfants, le fait qu'ils sont seuls face à leur écran et qu'ils manquent de ce collectif que constitue la classe, est quelque chose qui fait défaut et qui est un vrai problème pour leur développement personnel.
Et Philippe Mérieux, spécialiste des sciences de l'éducation.
Le retour des enfants à l'école, on en parle à 18h40 avec notre invité, le pédiatre Robert Cohen. Et au cœur de l'édition spéciale, donc à partir de 20h et jusqu'à 21h sur Europe 1. L'Europe se met en ordre de bataille, Fabienne Lemoyle, et se prépare dans la course au vaccin contre le coronavirus.
Quatre pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour s'assurer de la livraison de millions de doses d'un futur vaccin. Avec cette décision, en fait, Victor Dolande, l'Europe sécurise un stock.
Oui, si la formule du groupe pharmaceutique AstraZeneca est la bonne, l'Union européenne aura la garantie de recevoir 300 millions de doses minimum au meilleur prix. Alors pour le moment, l'efficacité de ce vaccin n'est pas encore prouvée, mais les essais cliniques sont très avancés selon AstraZeneca. Après des premiers tests concluants sur des malades au mois d'avril, le groupe pharmaceutique vient de lancer la phase 2 des essais cliniques sur plus de 10 000 volontaires en Angleterre. D'autres groupes tests vont suivre aux États-Unis, au Brésil dans les prochaines semaines, là où le virus circule encore assez largement pour vérifier l'efficacité du vaccin dans la population. Une recherche qui avance vite, très vite. Normalement, il faut plusieurs années pour réaliser toutes ces étapes. Et donc, dès le mois de septembre, on devrait connaître l'efficacité de ce vaccin. Et si ces résultats sont positifs, le grand public, lui, pourra disposer des premières doses dès la fin de l'année.
Victor Dolande, des précisions que nous développerons avec notre invité à 18h20, le patron France du laboratoire AstraZeneca sur cette sécurisation de stock au niveau européen, Fabienne.
Et puis, parler du déconfinement, notez que l'Espagne avance au 21 juin la réouverture de ses frontières avec le reste de l'Union européenne. 21 juin au lieu du 1er juillet, c'est l'exception, le Portugal avec qui les contrôles terrestres avec l'Espagne sont maintenus jusqu'au 30 juin. Par ailleurs, dès demain, on va pouvoir circuler un peu plus facilement entre pays européens.
Aux États-Unis maintenant, faut-il y voir les premières leçons après la mort de George Floyd? Eh bien, la chef de la police d'Atlanta, très en pointe dans le combat contre les violences policières, a annoncé sa démission.
Démission après la mort d'un jeune noir américain de 27 ans lors d'une interpellation qui a conduit à de violentes manifestations, autoroutes bloquées, restaurants incendiés. Et tout est allé très vite, Johanna Chabas.
Oui, Rachel Brooks est contrôlée vendredi soir après s'être endormie alcoolisée au volant sur un parking. Selon un rapport officiel, il résiste pendant son arrestation, vole un taser à l'un des policiers et s'enfuit. Poursuivi, il pointe le taser sur un officier. L'agent lui tire dessus et Rachel décède à l'hôpital. Moins de 24 heures après, la chef de la police, Erica Shield, en poste depuis 20 ans, démissionne. Elle a été ces dernières semaines un fervent soutien des manifestants contre les violences policières, comme l'a rappelé la maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, à la télévision américaine.
Parce qu'elle veut qu'Atlanta soit un modèle de réforme et de changement significatif pour tout le pays. Erica Shields a présenté sa démission immédiate de son poste de chef de police pour que notre ville puisse avancer en urgence et reconstruire la confiance dont les populations ont désespérément besoin.
À la demande de la maire, le policier responsable du tir mortel a été renvoyé de la police d'Atlanta. Un deuxième agent est également suspendu dans l'espoir d'apaiser les protestations. La mairie a aussi annoncé la création d'un comité de conseil pour réguler l'usage de la force par la police d'Atlanta. Elle attend des premiers retours d'ici deux semaines.
Johanna Chabas.
Et on va terminer ce journal avec un élan de générosité qui se consomme sans modération pour le coup, quand les vignerons se mobilisent pour venir en aide aux hôpitaux du Bordelais.
Et pour dire merci au personnel soignant et aider à financer de nouvelles installations, les vins de Bordeaux organisent une vente aux enchères en ligne, grand cru, séjour dans des propriétés viticoles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, comme en témoigne Christophe Château du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, au micro de Stéphane Place.
100% de la somme qui sera récoltée sera remise aux hôpitaux de Bordeaux et Libourne qui ont traité du Covid. On a 610 lots aujourd'hui sur la plateforme. On est sur le site de Drew Online. Pour y accéder, il faut aller sur le site de bordeaux.com. C'est le plus gros site de vente aux enchères en France. La vente est en cours. Clôture des enchères le dimanche 21 à minuit. On espère le lundi matin annoncer un joli montant à remettre aux hôpitaux début juillet. On a 6 bouteilles d'entre-deux-mer ou 6 bouteilles de rosé offertes par un vigneron jusqu'à un magnum de Pétrus pour les parties vin. Et puis pour la partie tourisme, ça peut être une visite d'un château ou un week-end de 3 jours dans un château avec dîner avec le propriétaire. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Le lot le plus faible, c'était 5 euros et le plus élevé, c'était 4 000. Et il y a des lots à tous les niveaux de prix. Et avec plutôt une volonté de dire on veut aider les personnes soignantes, mais pas que les médecins ou les chercheurs, partir des gens qui sont au nettoyage jusqu'aux médecins. On a commencé à échanger des devis avec l'hôpital de Bordeaux là, sur des appareils de nettoyage. Il y a des salles de repos des soignants qui sont en mauvais état, qui auraient besoin d'être refaites ou améliorées avec du matériel. C'est vers ces orientations-là que les budgets vont être investis.
Voilà, et on le rappelle, cette vente aux enchères, c'est jusqu'au 21 juin.
Merci Fabienne Lemoyle. On vous retrouve samedi, dimanche prochain pour
avec
Europe
plaisir.
Midi, tout terrain. Et pour le 18h, l'une des femmes du week-end. Donc merci beaucoup. Un homme de la situation pour le sport. Le sommaire d'Europe 1 Sport, c'est chaque samedi, chaque dimanche à partir de 20h. Bonsoir Lionel Rousseau. Alors
bonsoir,
un petit décalage ce soir. Hein,
bien sûr, exceptionnellement 21h.
Voilà,
absolument, après l'allocution et la spéciale autour d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, s'il y a des annonces autour du sport de la part du président, on en parlera avec nos experts et nos invités. Nos invités d'ailleurs, parmi ces invités, quelqu'un de prestigieux qui sort vraiment de l'ordinaire quand on parle de foot et de sport, Patrick Bruel, qui est un grand passionné et qui regrette que la saison de football en France se soit arrêtée trop tôt. On le retrouvera donc à partir de 21h.
Oui, il a fait, cela dit, pendant le coronavirus, des concerts à la maison qui avaient de la gueule, comme on dit. Merci.
Merci. Il a recueilli des fonds, c'est
absolument
vrai.
Oui. Lionel Rousseau à partir de 21h, donc, après l'édition spéciale autour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Un petit point sur la météo binaire de demain. Plus ou moins lumineuse, plus ou moins humide, Valérie Darmon.
Effectivement, du Bordelais aux côtes de la Manche, en passant par les Pays de la Loire, le ciel demeure hésitant avec un risque d'averse plus marqué l'après-midi. Même chose du sud de l'Aquitaine au Grand Est, région parisienne, massif central et midi toulousain, tout petit risque d'ondée. Sur les Pyrénées et de la Corse au Jura, en passant par Rhône-Alpes, le ciel reste menaçant, là aussi, plus ou moins, beaucoup moins sur la Grande Bleue, mais plus on rentre dans les terres et plus vous connaîtrez des nuages. Les températures entre 17 à Saint-Brieuc et 28 à Nîmes en ce lundi, donc des valeurs totalement inchangées, un petit peu comme le ciel.
Une météo qui évolue peu. Prochain point avec vous, Valérie Darmon, ce sera à 18h30 sur Europe 1. Et jusqu'à 20h, vous nous informez, Wendy Bouchard, c'est le grand journal du soir. Avec le gouvernement qui réagit au débat du moment sur la lutte contre les discriminations, annonce ce matin d'une nouvelle campagne, notamment de testing dans les grandes entreprises. En quoi ces dispositifs sont-ils efficaces et utiles? C'est notre dossier du soir avec notre invité Jean-François Amadieu. A tout de suite.
18h14, vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir sur Europe 1 et avec vous Wendy Bouchard. Nous revenons maintenant sur les annonces du ministre du Logement et de la Ville dans Le Parisien aujourd'hui en France, Julien de Normandie, ce matin pour lutter contre les discriminations.
Absolument Marlène, et d'abord celle qui touche le monde du travail, c'est l'un de vos sujets de prédilection. Bonsoir Jean-François Amadieu.
Bonsoir.
Vous qui êtes sociologue et directeur de l'Observatoire des discriminations, comment réagissez-vous d'abord à cette nouvelle campagne de testing? C'est l'une des annonces que va lancer le gouvernement dans les grandes entreprises pour nommer, pour punir aussi celles qui seront soupçonnées de discriminer.
Oui, en fait, ce n'est pas du tout une annonce parce que il y a déjà 3 ans, il avait été annoncé, et le président de la République lui-même avait déjà annoncé qu'il allait tester 120 entreprises, 40 par an, et c'était déjà prévu. D'ailleurs, on a déjà fait une partie de ce test. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce qui vient d'être annoncé. Ça, c'est le premier point.
Oui,
donc,
c'est juste la poursuite de cette grande enquête dont on a connu il y a un an et demi les premiers résultats, voilà. Avec 7 entreprises d'importance, d'ailleurs, épinglées pour présomption de discrimination à l'embauche. Air France, Accor, Renault, Soprasteria. Tout cela a du bon. Name and shame, comme le redit Julien de Normandie, montrer du doigt pour accélérer justement la mutation dans ces entreprises.
Oui, alors il y a deux éléments importants, c'est qu'il faudra que la prochaine fois, et je pense que ce sera le cas, ce soit fait dans de bonnes conditions, parce que ça n'avait pas été tout à fait le cas la dernière fois. On se souvient qu'Air France en particulier, à juste titre, avait protesté. Mais surtout, il y a un point de préoccupation, c'est ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, on pensait que le name and shame peut-être aller convaincre certaines entreprises de cesser de discriminer. Mmh. Or, malheureusement, on a constaté que en 2020, c'est de la dernière fois, une grande entreprise, on va la nommer, qui avait déjà été testée deux autres fois, donc ça fait trois fois, 2008, oui. 2016, 2020, trois fois que Accor, pour être précis, a été nommément désigné par le défenseur des droits, par le gouvernement, par la HALT. Donc, à trois reprises. Et ça n'a jamais, apparemment, eu beaucoup d'effet. Donc, évidemment, c'est un peu gênant. C'est d'ailleurs qu'on a l'impression qu'une fois l'annonce passée, les choses repartent comme avant. Il ne s'agit pas du tout d'ailleurs d'accabler Accor et le groupe Accor, c'est une caractéristique souvent du secteur, restauration. Donc oui. On sait que les discriminations liées aux origines sont plus importantes, c'est un secteur où il y a plus de discrimination qu'ailleurs. Mais vous voyez, donc c'est évidemment le name and shame, on se dit que c'est peut-être pas suffisant. Outre le fait que l'autre difficulté, c'est que les entreprises, les grandes entreprises, je les connais, beaucoup d'entre elles se préparent à ces tests. Donc, elles le savent, elles s'en prémunissent. Et pendant le même temps, elles délaissent d'autres discriminations. Par exemple, on peut penser à ce qui concerne les seniors en emploi, qui sont en difficulté, le seront encore plus dans les mois qui viennent d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est l'inconvénient. C'est que, vous voyez, en faisant ces annonces, les entreprises vont...
relâche la pression et on la reporte.
Délaisser les autres. Absolument. Oui, relâcher les efforts sur les autres.
C'est sujets, ça, c'est ça. C'est intéressant tout ce que vous nous dites, Jean-François Amadieu, notamment sur la méthodologie remise un peu en question par Air France. Donc, à l'époque, la méthode et la technique, c'est toujours sur la base de CV avec un jeu à la fois sur l'adresse, sur les noms à consonance étrangère. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, les campagnes de testing.
Oui, c'est toujours fait comme ça. Mmh. Les CV sont similaires et vous faites juste changer le nom et le prénom. Comme ça, vous signalez une origine. Bon, en général, on n'utilise pas de photo.
Oui.
C'est fait comme ça. On peut aussi utiliser l'adresse. C'est classiquement fait par le gouvernement pour regarder si une adresse dans des quartiers moins favorisés, est-ce que ça a un effet. Bon, là, en l'occurrence, la dernière fois, ça n'en avait pas vraiment, ce qui n'est pas franchement forcément une surprise. Mais dans la méthode, là où il faut être vigilant, c'est effectivement de d'être sûr que vous avez envoyé vos CV en réponse à des offres d'emploi qui étaient publiées par une entreprise et vous prenez les précautions. Bon, la dernière fois, ça n'avait pas été fait comme ça, c'était une erreur des gens qui avaient fait ce test. Malheureusement, ça avait été souvent des candidatures spontanées ou même de simples messages où on prenait des renseignements. Mais ce n'était pas vraiment, vous voyez, c'était pas traité par les équipes de recrutement.
Donc, d'accord.
Concrètement, là, ce sera mieux fait, je pense, la prochaine fois. Et indépendamment de la méthode qui n'était pas satisfaisante, donc il est logique qu'Air France, par exemple, ou d'autres n'aient pas été contents. S'agissant de certaines d'une entreprise, je mentionnais tout à l'heure une entreprise de l'hôtellerie-restauration, là, bonne ou mauvaise méthode, c'est pas la première fois, et je dirais que là... malheureusement, c'est un peu habituel. Quoi.
Encore un mot important, Jean-François Amadieu. Si vous voulez bien, vous qui êtes donc directeur de l'Observatoire des discriminations, on parle beaucoup de discrimination à l'embauche, c'est ce qui nous réunit en premier lieu ce soir. Mais que dire des discriminations sur l'accès au logement ? Il y a eu beaucoup d'enquêtes menées notamment par SOS Racisme sur le rejet de dossiers à consonance justement qui ne rentrent pas dans les cases, diront certains directeurs d'agence ou certains propriétaires. Est-ce que l'accent est porté aussi largement sur le sujet ? Le ministre vient d'annoncer qu'il va signer un décret qui oblige les agences immobilières à suivre une formation de lutte contre les discriminations. Vous dites la belle affaire ?
Non, non, c'est pas la bonne méthode. La méthode pour le logement, vous avez raison, il y a un vrai problème d'accès au logement. Mais là, il faut des tests surprises.
Oui.
Il faut que le défenseur des droits le fasse. Et c'est ça qu'il faut faire. Pour le coup, il faut faire du testing. Mais du testing, ça peut être efficace. Les formations, non, certainement pas. Elles existent déjà, vous savez, dans le domaine de l'emploi. Pour les recruteurs, qui là aussi, il y a une formation obligatoire et toute personne qui fait du recrutement dans les entreprises est censée avoir suivi des formations. Bon, c'est dans la loi. Donc là, on va faire pareil pour le logement. Mais ce que nous savons de façon certaine, il y a des études internationales sur le sujet, c'est que vous savez que c'est pas la peine de former les gens. Ils connaissent le droit et quand ils choisissent de discriminer, ils savent ce qu'ils font.
Ils le font en connaissance de cause, bien sûr.
Oui. Donc c'est pas les formations là-dessus changeront pas grand-chose.
Merci.
C'est pas une méthode vraiment très efficace. C'est pas ça. Il vaut mieux former des corps d'inspecteurs qui éventuellement pourraient faire du testing ou aller épingler des cas et essayer d'actionner le pénal, si vous voulez.
Oui, c'est ça, le recours en justice pour protéger ses clients. Merci Jean-François Amadieu de votre lecture, votre analyse. Vous qui êtes directeur de l'Observatoire des discriminations, vous étiez sur Europe 1 ce soir. Merci.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec vous, Wendy Bouchard. C'est le grand journal du soir. À suivre, trois questions.
Trois questions au patron France du laboratoire AstraZeneca au cœur de l'actualité, alors que l'Europe commande 300 millions de doses d'un vaccin potentiel contre le Covid. A tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez le grand journal du soir avec Wendy Bouchard. Il est maintenant 18h24. Voici trois questions à Olivier Nataf.
Vous qui êtes le président France du groupe biopharmaceutique AstraZeneca. Bonsoir Olivier Nataf.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous portez beaucoup d'espoir au cœur de l'actualité avec cet accord, on en parlait à 18h, que votre groupe vient de passer avec l'Alliance inclusive pour le vaccin dirigée par l'Allemagne, par la France, l'Italie et les Pays-Bas. Et vous vous engagez donc à fournir 300 millions de doses de vaccin contre le Covid. C'est un pari sur l'avenir, Olivier Nataf. Ce vaccin, à ce jour, n'existant pas.
C'est un pari qu'il est important de prendre et je souhaitais reconnaître les efforts et les saluer, les efforts des gouvernements de l'Alliance inclusive. Vous l'avez dit, tous les mots ont un sens, Alliance inclusive, parce que ces quatre pays d'Europe et les gouvernements de ces pays se sont alliés pour aller plus vite, pour accélérer et pour sécuriser un premier candidat vaccin qui est destiné à servir tous les pays membres de l'Union européenne.
Ça veut dire que vous travaillez à côté ou concurremment à l'Institut Pasteur, par exemple, que nous avions reçu il y a quelques semaines et qui nous annonçait des essais cliniques pour le mois de juillet ?
Tout à fait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence dans cette crise. Il faut qu'il y ait de la collaboration et c'est ce que nous faisons avec l'université d'Oxford. Donc, il est important qu'il y ait plusieurs candidats vaccins qui soient développés en parallèle pour que nous trouvions une solution pour l'ensemble de la population.
Quels sont les termes de cet accord passé avec une partie donc de ces pays d'Europe à partir du moment où vous dites vous engagez à fournir ces doses sans aucun profit? Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Nataf? Oui. C'est-à-dire à prix coûtant?
C'est exactement ça, à prix coûtant, c'est-à-dire au prix que nous coûte la production. Donc il n'y aura pas de profit qui sera fait avec ce projet. Et donc cet accord, c'est en fait une précommande qui va nous permettre de démarrer la production, de mettre en place les chaînes d'approvisionnement. Et donc ça nous permet de faire les choses en parallèle, si vous voulez. Il y a la recherche, et vous l'avez dit, ce vaccin doit d'abord démontrer son efficacité. Mais en parallèle, nous prenons le risque, avec le soutien des gouvernements de l'Alliance inclusive, de commencer d'ores et déjà la production, de manière à pouvoir, dès les résultats d'efficacité à l'automne, fournir des dizaines de millions de doses avant la fin de l'année, donc à l'ensemble des citoyens européens.
Vous êtes capable de dire, en tout cas, premier résultat à l'automne, pour considérer une mise en circulation de ce vaccin au premier semestre 2021 ?
Alors, d'ici la fin de l'année, la mise en circulation de ce vaccin, si les résultats sont probants à l'automne, puisque la particularité, c'est que nous sommes déjà en phase d'essai clinique chez l'homme. Quand vous entendez les essais cliniques, il peut y avoir des essais précliniques chez l'animal ou etc. Quand nous sommes chez l'homme, c'est que nous sommes en phase avancée et spécifiquement, nous sommes déjà en phase 3 puisqu'il y a déjà eu en phase 1 environ un millier de patients vaccinés en Angleterre. La phase 3 qui consiste à inclure 10 000 patients volontaires en Angleterre a déjà commencé.
Oui.
Il va y avoir une trentaine de milliers de patients aux États-Unis, environ 5 000 au Brésil, ce qui fait que d'ici à l'automne, nous aurons 50 à 60 000 patients qui auront été vaccinés et nous aurons des résultats d'efficacité qui seront probants ou ne le seront pas, mais en tout cas qui seront crédibles.
On parle beaucoup de course au vaccin, saine ou malsaine. Est-ce d'ailleurs avec votre entremise la réponse de l'Europe, de votre groupe, à l'attitude de Sanofi qui, pour une question de gros sous, avait souhaité privilégier le marché américain ?
Je ne crois pas qu'il y ait de réponse à quoi que ce soit. Il s'agit d'une course à la solution. Il s'agit d'une course à la réponse à une crise exceptionnelle. Et donc, nous mettons en place une réponse exceptionnelle en travaillant avec les autorités sanitaires, en travaillant avec le groupe d'Oxford, avec l'université, en travaillant avec des partenaires fournisseurs qu'on appelle aussi des contract manufacturing organizations qui vont nous aider à produire ce vaccin. Et donc, cet effort mondial, et particulièrement dans ce cas pan-européen, cette association publique-privée, ces partenariats publics-privés sont absolument essentiels pour trouver une réponse qui va nous permettre de sortir de cette crise de manière durable.
Et nous suivrons vos efforts, Olivier Nataf, avec ce groupe biopharmaceutique AstraZeneca qui fait la une de l'actualité ce soir. Merci à vous.
Merci.
À suivre dans ce grand journal du soir, l'essentiel de l'info, l'agenda de la semaine et puis on va en entendre parler.
Oui, une tribune de pédiatres qui demande moins de contraintes sanitaires à l'école, le retour massif des enfants, nous serons avec le docteur Robert Cohen. Avant tout roule, l'essai auto de la semaine, Pierre de Villeneuve, au volant d'une BMW coupée.
Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard.
Et l'essentiel de l'actualité de ce 14 juin. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir. Le président va présenter la nouvelle étape du déconfinement qui débute le 22 juin avec notamment la réouverture des restaurants en Ile-de-France et un assouplissement des règles dans les écoles. Une nouvelle opération de testing pour lutter contre la discrimination à l'embauche, annonce de Julien de Normandie, le ministre de la Ville. Une première phase avait permis d'épingler 7 entreprises sur les 40 testées. La crainte d'une seconde vague de coronavirus en Chine. Pékin lance une campagne massive de dépistage après la découverte d'un foyer épidémique dans la ville. Autre inquiétude en Iran où plus de 100 décès ont été enregistrés en 24 heures. Ça n'était plus arrivé depuis 2 mois. La police américaine a à nouveau pointé du doigt. Un suspect afro-américain a été tué à Atlanta lors d'une tentative d'interpellation. Des émeutes ont éclaté dans la ville. La chef de la police en poste depuis 20 ans et dont le nom était avancé comme possible colistière de Joe Biden pour la présidentielle de novembre, a démissionné. Aux États-Unis, où l'état de santé de Donald Trump fait l'objet de spéculations, le président, qui fête ses 74 ans aujourd'hui, a montré quelques signes de fatigue hier. Il s'est défendu toutefois d'être diminué physiquement.
Merci Sophie, tu sois tout à l'heure 19h pour le journal. Valérie Darmon, le temps évolue assez peu entre aujourd'hui et demain. C'est quasiment la même chose. Hein.
Tout à fait, avec toujours cette tendance orageuse qui persiste, entrecoupée d'averses seulement entre Normandie et Pays de la Loire jusque sur la pointe bretonne. Plus d'orages en revanche, mais toujours quelques averses entre les Ardennes et les Alpes du Sud ainsi que sur les Pyrénées. Ailleurs, le ciel est toujours hésitant, plus variable. Il ne fait vraiment beau que le long de la Méditerranée. Les maximales qui ne bougent pas, 19 à Boulogne-sur-Mer en ce lundi après-midi, d'annoncé par Météo France, 20 à Angoulême et Clermont-Ferrand ainsi que Biarritz et Tarbes, 21 à Bourg-en-Bresse, 22 à Montluçon, 23 à Charleville et à Paris, 25 à Carcassonne et à Lyon et enfin 27 à Montpellier.
La météo signée Valérie Darmon. Il est 18h33, Wendy Bouchard.
Et voici donc l'agenda avec Naïma Bencheman. Bonsoir Naïma.
Bonsoir Wendy.
5e semaine de déconfinement, vous nous proposez de la culture qui se remet en marche progressivement et on commence avec une balade.
Une balade rafraîchissante et bucolique parmi les fleurs à l'approche de l'été. Faites le plein de couleurs et de parfums floraux au Jardin des Plantes qui a rouvert la semaine dernière pour le plus grand plaisir des Parisiennes et des Parisiens, une bouffée d'oxygène bien précieuse après 2 mois anxiogènes. Et quel plaisir de flâner au fil de ces 11 jardins botaniques et 24 hectares de verdure de la roseraie au carré des roches et pivoines.
J'ajoute que la ménagerie du Jardin des Plantes a également rouvert pour le plaisir d'un certain nombre d'enfants. Mardi, vous nous proposez une série disponible sur Netflix. Il s'agit d'Unorthodox.
Là d'où je viens, il y a beaucoup de règles. Tout ce qui importe pour ma famille, c'est que je sois une mère et une femme dévouée. Je voulais m'éloigner autant que possible de ma communauté.
Alors c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Pour échapper à la pression de sa communauté juive ultra-orthodoxe, comme le titre l'indique, et fuir un mariage malheureux, la jeune Itzi, en quête de liberté, quitte New York pour Berlin. Un vrai salut et un lieu de renaissance pour elle, qui passe par la musique et par l'art. Unorthodox nous donne matière à réfléchir sur notre capacité de tolérance au sein de notre société.
Oui, c'est aujourd'hui dans l'air du temps. Mercredi, c'est théoriquement le jour des sorties ciné. Les salles rouvrent le 22 juin prochain et on se replonge avec vous dans des scènes de films cultes.
Quel est le point commun entre Psychose, Scarface, Le Roi Lion ou encore Star Wars à votre avis?
Alors ça, j'en ai aucune idée.
Eh bien, leurs scènes de mort sont tellement effrayantes...
Ça, certainement, oui.
Qu'elles ont marqué des générations de spectateurs tant elles font froid dans le dos. Alors comment et pourquoi ces scènes sont aussi réussies? Justement, la chaîne YouTube Chronique Fiction nous donne des clés en prenant un parti pris terrifiant mais néanmoins intéressant, celui d'autopsier au travers d'une mise en scène clinique et décalée ces morts célèbres du cinéma. Et c'est aussi une belle occasion de découvrir ou redécouvrir des films grandioses.
Chronique Fiction. Et puis on a pris l'habitude le vendredi de se quitter en musique. Session de rattrapage ce soir. On écoute, on réécoute l'un des plus grands concerts de Manu Chao.
Solo va con mi pena, sola la mi condena, correre mi destino, para volar la ley.
Le Bayonareno Tamba la Tour de Manu Chao, c'était en 2008, sous le soleil impétueux des arènes de Bayonne. Un concert mythique, une atmosphère électrique où l'ex-leader de la Mano Negra rappelait de quel bois le citoyen du monde se chauffe. Une vraie cocotte minute prête à exploser pour le plus grand bonheur de ses fans déchaînés.
Le live du moment, c'est le concert de Manu Chao 2008 que vous nous proposez de réécouter au cœur de cet agenda de la culture. On se retrouve dimanche prochain pour cette chronique. Pierre Naïmar, Benjamin, merci.
Merci.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1, c'est le grand journal du soir. À suivre.
Eh bien, à suivre comment on mesure le risque aujourd'hui, remettre les enfants à l'école massivement. C'est le docteur Robert Cohen qui nous a rejoint, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Ne bougez pas.
18h38, la suite du grand journal du soir sur Europe 1 et on va en entendre parler, Wendy Bouchard, l'appel de pédiatres dans une tribune pour remettre tous les enfants à l'école.
C'est une piste qui sera peut-être suivie d'ailleurs par Emmanuel Macron ce soir, alors que beaucoup de spécialistes rassurent d'ailleurs sur le retour massif des enfants à l'école. Et vous en êtes, bonsoir docteur Robert Cohen.
Bonsoir.
Pédiatre, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, vice-président de la Société française de pédiatrie, avec des discours, avec des études qui ont largement contribué à rassurer les parents depuis le début de la crise, justement, sur le fait que, globalement, les enfants portaient moins le virus que les adultes, avec moins de formes graves. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux parents qui vous écoutent ? À l'école comme ailleurs, le risque zéro n'existe pas. Ce risque doit être pris maintenant ?
Clairement, hein, le risque zéro n'existe pas, mais il est tellement faible pour les enfants. Ils portent moins le virus, ils sont moins contaminants, ils font des maladies moins graves. Il peut y avoir quelques maladies graves, mais c'est vraiment l'exception. Et aujourd'hui... on a pris en compte que le risque Covid et pas tous les autres risques qui sont liés à cette absence d'école. Et ces risques sont multiples. Ils sont liés, bien sûr, pour les plus fragiles. Mais ça a été dit depuis le départ. Je parle des plus fragiles socialement, mais aussi intrinsèquement. Par exemple, tous les enfants qui ont autistes, imaginez-vous, depuis des mois, il ne s'est rien passé. Pour les enfants qui étaient hyperactifs, imaginez-vous, quand vous êtes confinés, vous gardez à la maison des mois, des enfants hyperactifs sans éducation. Mais pour tous les autres aussi, on voit qu'on est arrivé au bout du système. On ne peut plus maintenir plus longtemps les enfants, même sans facteur de risque, à l'extérieur de l'école. Ils ont besoin de retourner à l'école pour apprendre, pour rencontrer les autres aussi. Parce que ça fait partie de leur éducation de rencontrer les autres.
Bien sûr, dans votre cabinet ou à l'hôpital, vous voyez, vous, des enfants arriver avec des pathologies psychiques, physiologiques, liées justement à cette absence de lien social ?
Clairement, on a tous le même constat. On a énormément de pathologies aujourd'hui psychologiques, et plus ils sont grands, plus ils en ont. Et on a énormément de pathologies psychosomatiques, mais aussi des pathologies organiques qui peuvent être liées justement à l'absence de contact avec les autres enfants. Cette absence de contact avec les autres enfants, il faut s'en méfier dans le temps. On devait se le permettre au moment du pic épidémique. Il n'y avait pas le choix de ce côté-là. On ne remet pas en cause une seule seconde ça. Mais maintenant, il est temps d'aller plus vite. Il est temps d'accepter beaucoup plus d'enfants à l'école.
Et en fait, docteur Cohen, vous pensez à ces enfants qui peut-être ne retrouveront pas avant septembre le chemin de l'école. Ça veut dire 6 mois sans école, 6 mois sans lien social avec d'autres enfants. Ça, c'est inédit.
C'est catastrophique. Depuis la guerre de 39-40, il ne s'est pas produit de période où les enfants aient été 6 mois sans école. C'est quand même un phénomène extraordinaire. Vous me direz qu'il ne s'est pas produit non plus d'épidémie de ce type-là depuis longtemps. Ça, c'est clair. Mais on s'aperçoit des limites du système et des risques du système. Alors au début, ça se passait à peu près bien. Les enfants avaient compris, il fallait se confiner, les parents étaient là. Mais là, ça devient extrêmement difficile. Et même quelques jours d'école, avant septembre, c'est important pour eux.
Alors, ils ont besoin des autres socialement, on l'a compris, mais est-ce qu'ils ont besoin aussi des autres pour être dans un bouillon de culture qui peut immuniser les plus jeunes d'entre eux ?
Absolument. Sans parler de bouillon de culture, mais on a besoin, un système immunitaire, il a besoin d'être stimulé. Si on renforce trop les mesures d'hygiène sur des périodes très prolongées, sur quelques semaines, sur quelques mois, il n'y a pas de problème. Mais là, au-delà, on sait très bien que cette privation immunitaire peut aboutir à une augmentation des maladies allergiques. Mmh. Et on sait très bien qu'au fur et à mesure des années, les eczémas ont augmenté, les asthmes plus ou moins sévères ont augmenté. Aussi les maladies auto-immunes. Il faut savoir que les maladies auto-immunes sont aussi fonction de cette éducation immunitaire des enfants quand ils étaient petits. Et c'est comme ça qu'on voit une augmentation de la fréquence des diabètes, des maladies, des thyroïdites,
donc,
etc.
Donc vous dites attention aux politiques trop hygiénistes qu'on aurait tendance, nous,
adultes, durable.
Et trop durables.
Et trop durables.
Mais vous ne remettez pas en question, par exemple, le lavage des mains régulier, comme aujourd'hui c'est au cœur des consignes sanitaires ?
Certainement pas. Dans les écoles, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Hein. C'était clair. Donc maintenant qu'on remette ça en place, le lavage des mains, c'est probablement une des mesures les plus efficaces chez l'enfant. Hein. Pour prévenir le Covid et pour prévenir beaucoup de maladies infectieuses.
De la grippe à la gastro-entérite. Oui.
De la grippe à la gastro-entérite. Tout ça, on ne remet pas en cause. Mais le reste, les enfants ont besoin les uns des autres pour se stimuler aussi immunitairement. Et on sait qu'un système immunitaire qui ne travaille pas, il n'a pas une immunité entraînée.
Mais est-ce que ça a un sens de remettre, disons, une fois ou deux par semaine d'ici à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire dans trois semaines, ces enfants à l'école ?
Oui, ça a vraiment du sens parce que d'abord, on voit beaucoup d'enfants qui ont vraiment ce désir-là de pouvoir revoir.
Et qui tournent en rond.
Et qui tournent en rond et de pouvoir revoir l'école. Moi, j'ai des exemples multiples autour de moi d'enfants retournant à l'école. Ils disent, c'est génial, je suis retourné à l'école. C'est très bien, je suis très content. Mais c'est parce qu'ils en ont besoin. Ils s'en aperçoivent au bout d'un moment qu'ils en ont besoin. Alors qu'à un moment, on peut se dire qu'ils sont contents de faire l'école buissonnière. Non, là, on a passé ce stade-là.
Ça veut dire qu'il faut rassurer les parents, Dr Robert Cohen. Il y a un sondage que nous avons publié avec BVA jeudi. Une majorité de Français pensent qu'il faut maintenir tel quel le protocole sanitaire dans les écoles au moins jusqu'en septembre. Donc l'adresse que vous faites là, c'est aux parents responsables qui peuvent remettre leurs enfants en connaissance de cause.
Ils peuvent remettre leurs enfants à l'école. Et il y a toutes les raisons de penser s'ils sont inquiets maintenant. Je crains qu'ils devront être aussi inquiets en septembre parce que l'hypothèse que l'épidémie disparaisse complètement pour septembre, c'est une hypothèse qui est très 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 peu probable. On ne dit pas qu'elle ne va pas se produire, mais il y a très peu de chances que ce soit comme ça. Ce qui est le plus probable, c'est que ce virus, il va falloir qu'on vive avec lui quelques temps, avec des moments où on prendra plus de précautions, moins de précautions en fonction du risque. Et il faut adapter les précautions que nous allons prendre vis-à-vis du risque.
Oui, et vous faites bien le distinguo entre le monde des enfants, dont vous êtes spécialiste, et le monde des adultes, avec le port du masque, la distanciation physique ou sociale.
Absolument, c'est très 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 différent, les enfants et les adultes, sur ce plan-là. Et il est clair que les adultes vont devoir maintenir des mesures d'hygiène plus importantes. Elles ne doivent pas être excessives non plus, non pas pour les mêmes risques, mais parce que sur la durée, hein, je dis souvent qu'on est parti sur un marathon et pas sur un sprint. On ne peut pas courir en permanence à la même vitesse.
Et qu'il faut mettre nos enfants à l'abri de nos angoisses.
Exactement. Oui. Exactement.
Merci docteur Robert Cohen. On retrouve cette tribune publiée vendredi. Vous qui êtes vice-président de la Société française de pédiatrie, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, et toutes vos études qui vont avec sur le faible degré de contagiosité des enfants. Merci beaucoup. Voilà, retourner à l'école, c'est le mot que partagera peut-être Emmanuel Macron ce soir.
On l'espère.
Merci.
Le Conseil national des professions d'automobile, organisation professionnelle au service des automobilistes, vous présente maintenant Tout roule.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, chaque dimanche avec vous. Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une de Tout roule, la voiture évasion, la voiture thérapie, explication à suivre. Les news avec une polémique chez PSA et l'essai de la semaine, le nouveau coupé série 8 de chez BMW.
Nous commençons par le dossier de la semaine, c'est la thérapie au volant.
Eh bien oui, rouler peut vous faire du bien. Aujourd'hui, c'est politiquement incorrect de dire ça parce que la voiture, c'est l'ennemi du peuple. Mais regardez bien certains films, certaines séries, et vous avez des personnages qui disent « je suis allé rouler, ça me fait du bien ».
Oui, ça c'est vrai, pourquoi alors ?
Eh bien parce qu'on est seul, on est dans un environnement connu, on va rouler souvent à des heures creuses, hein, et donc sur des routes dégagées. La vision du paysage qui passe, comme les trains, ça apaise. Le fait que vous soyez aux commandes active le cerveau reptilien pour les réflexes, mais aussi le cortex cérébral pour tout un panel d'imagination. Et là, ça peut être des projets professionnels, une solution à un problème auquel vous n'aviez pas songé. Une spécialiste note que notre conscience se réveille lorsque nous sommes exposés à une situation nouvelle, comme par exemple une route qu'on ne connaît pas. C'est donc toute une série de stimuli insoupçonnés qui se mettent en marche dans votre cerveau. Donc si un jour vous vous ennuyez, vous savez que tout roule passe aussi par la thérapie en conduisant.
Les news de la semaine dans Tout Roule.
Oui, et vous avez peut-être suivi les 24 heures du Mans ce week-end. Et pour la première fois, la course était organisée en 100% virtuel. Covid oblige. Polémique autour des salariés PSA venus en France d'une usine de Pologne. Le groupe indique que c'est une mesure temporaire. Le marché auto reprend des couleurs. Les résultats sont au maximum de ce qu'on pouvait espérer, indique le président du CNPA, Francis Bartholomé. François Roudier du CFA parle de frénésie de consommation. Focus la semaine prochaine justement sur ce sujet car on aura plus de chiffres.
Et puis pour l'essai de la semaine, ça c'est du lourd, vous êtes monté à bord de la BMW M8.50i grand coupé, rien que ça.
Et dans la tradition des coupés BMW, cette série 8 grand coupé est la déclinaison 4 portes, déjà initiée par la précédente série 6. La genèse de ces coupés sportifs remonte aux années 60 avec des autos magnifiques comme la Iso Rivolta, mais plus récemment on a la Panamera chez Porsche, la Rapide chez Aston Martin, et elles ont initié ce concept du célibataire en sportif qui un jour se retrouve à avec deux enfants, mais il ne veut pas pour autant changer son style de vie ni de conduite. Alors voilà, cette voiture basse, très très basse, hein, plaquée au sol comme une araignée, surtout avec le système 4 roues motrices X-Drive, au design fulgurant. On est là sur un moteur V8 530 chevaux, souple et économe en mode EcoPro en ville. Sur la route, c'est autre chose. Voilà, c'est une vraie voiture de course. La lettre M pour Motorsport, c'est pas un gadget. À l'intérieur, on se retrouve avec les équipements d'une série 7. Je suis un peu moins fan du design intérieur, mais oui. Ça, c'est mon côté old school. Sans doute, j'aurais préféré plus de bois, plus d'Angleterre dans cette voiture qui est une voiture allemande. BMW a multiplié les versions coupées de ses modèles, 2 ou 4 portes, et la dernière série 2 grand coupé, qui sera sans doute beaucoup plus abordable et qu'on essaiera prochainement, risque de séduire le plus grand nombre.
Merci Pierre, Tout Roule chaque dimanche et demain, on vous retrouve à la présentation d'Europe Midi sur Europe 1, Pierre Devineau.
Merci Wendy.
Tout roule, c'est avec le CNPA, Conseil National des Professions de l'Automobile. Ce sont 140 000 entreprises et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien partout en France. Et le grand journal du soir se poursuit avec une chanson dans la tête, Wendy.
À la veille d'une date importante pour les fans de Johnny, le 15 juin, son anniversaire, avec Fabien Lecoeuvre.
Vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard et c'est l'heure d'une chanson dans la tête. C'est notre rendez-vous culturel et musical.
Avec une date demain que les amoureux de Johnny n'oublient pas, le 15 juin, son anniversaire.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange m'a dit.
Vous n'oubliez pas Johnny non plus. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
Avec toutes vos anecdotes à la clé et au cœur de l'actualité, un coffret qui est dédié au chanteur.
Absolument, un coffret intitulé Happy Birthday Live est paru cette semaine chez Universal. Ce coffret de 2 CD et 1 DVD permet de retrouver un concert inédit enregistré au Parc de Sceaux le 15 juin 2000, donc il y a 20 ans pile.
Ça c'est pour l'oreille, pour les yeux, il y a l'actualité littéraire qui rattrape Johnny.
Et oui, avec un livre du biographe de Johnny, Gilles Lott, sorti le 28 mai dernier, Lady Lucille, oui. Aux éditions du Seuil. Alors un livre polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et dans lequel il revient sur l'histoire d'amour secrète que Johnny aurait vécue avec Catherine Deneuve, surnommée, c'est elle qui est surnommée Lady Lucille bien sûr, grand séducteur, Johnny bien sûr, a eu plusieurs femmes dans sa vie. Et donc aujourd'hui, chère Wendy, je vais vous parler de toutes les chansons que Johnny a chantées justement pour les femmes de sa vie, à commencer donc par cette fameuse Lady Lucille. Et nous sommes en 1962.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde.
Ils étaient jeunes, ils étaient beaux dans Les Parisiennes, c'est
ça. Oui, personne n'oubliait cette scène culte du film Les Parisiennes, réalisée par Marc Allégret, bien sûr, dans laquelle on voit et on entend Johnny dans le rôle d'un certain Jean Allard qui charme la belle Sophie, incarnée par Catherine Deneuve, en lui interprétant Retiens la nuit dans un coin de cuisine. Alors, de la fiction à la réalité, selon Gilles Lott, le pas aurait été franchi et Catherine Deneuve incarnait l'idéal féminin du jeune Johnny Hallyday, alors âgé de 18 ans, je le rappelle. Un amour secret, en tout cas, puisqu'à l'époque, la comédienne partageait la vie de Roger Vadim. Johnny n'en parlera qu'une seule fois dans la presse en 1993. C'était dans Paris Match. je fais une parenthèse d'ailleurs, parce que Paris Match sort en ce moment, évidemment, Secret d'amour, très beau hors-série sur toutes les grandes histoires d'Yves Montand, Marilyn Monroe, de tous les couples comme ça.
On en parlera avec Patrick Maël, rédacteur en chef, ça, dimanche prochain.
Tenez. Absolument.
Autre Lady, alors pas Lady Lucille, mais Lady Sylvie, puisque vous parlez des femmes de Johnny, il l'épouse le 12 avril 1965, Sylvie Vartan.
Exactement, Johnny Hallyday a chanté plusieurs chansons dédiées à Sylvie Vartan, dont « Elle est terrible », on était en 1962, « Mon anneau d'or » en 65, et ce fameux « Que je t'aime » composé par Jean Renard sur des paroles de Gilles Thibault, et là c'est en 1969.
Donc pour Sylvie Vartan.
Oui, Johnny a découvert cette chanson pour la première fois chez Jean Renard, un producteur au 46 rue Richer à Paris. Je suis très précis, vous avez vu.
Toujours, malgré, j'adore. Le diable est dans les détails, Fabien.
Malgré le coup de cœur du chanteur, ce titre va pourtant rester plusieurs mois dans un tiroir, Wendy. Et c'est la participation de Johnny Hallyday à une émission de Maritier Gilbert Carpentier qui va permettre à la chanson d'exister.
Ah, génial.
La productrice, évidemment fascinée par ce titre, demande à Johnny de l'enregistrer pour l'émission. Mmh. Il va le faire et le succès sera au rendez-vous avec plus de 500 000 exemplaires vendus en moins de 6 mois.
Ils en ont fait des belles choses, Maritier Gilbert Carpentier. Autre femme de sa vie qui lui donnera Laura, Nathalie Baye et ce prélude magnifique.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Voilà, ces deux voix qui s'entrechoquent, c'est en 1982, Fabien Lecoeur.
Absolument, Johnny Hallyday rencontre pour la première fois Nathalie Baye à l'occasion d'une émission de TF1, produite toujours par Maritier et Gilbert Carpentier dans ce programme intitulé Formule 1, consacré spécialement à Johnny le 14 mai 1982.
Oui.
Il est prévu qu'il interprète un sketch de série noire écrit par Philippe Labro et intitulé Quoi de neuf, ma jolie. Alors Nathalie Baye qui sort, bien sûr, tout le monde le sait, d'une relation passionnée, compliquée avec l'acteur Philippe Lothar, va se laisser envoûter par le charme de Johnny et par sa timidité, c'est ce qu'elle racontera. Une relation d'amour aussi improbable que passionnée va naître. Nathalie Baye va jouer un rôle important dans la vie amoureuse de Johnny, mais aussi dans sa vie professionnelle. Très proche de France Gall, c'est Nathalie qui va organiser le rapprochement de Johnny avec Michel Berger, qui lui écrira donc quelque chose de Tennessee, tube de l'automne 1985 qui restera, tenez-vous bien, 18 semaines au top 50 d'Europe 1.
Et voilà. Et n'oublions pas non plus la femme qu'il va épouser deux fois, Johnny, Adeline, et cette chanson éponyme. Mais c'est pas ce titre.
Et oui, les fans de Johnny la connaissent bien. Cette chanson sortie en 1990 ne figure sur aucun album studio de Johnny, mais uniquement sur l'album Live, dans la chaleur de Bercy. Elle a été écrite et composée par Félix Gray, on l'a oublié. C'est la première fois que Johnny chante aussi directement son amour pour l'une des femmes de sa vie. Entre Adeline et Johnny, ce fut, il faut le raconter, quand même une histoire passionnelle de plus de 3 ans. Ils ont été mariés deux fois, entre 1992 et 1994. Oui. Et bien sûr, pour sa dernière femme, Laetitia, Johnny a chanté 2 chansons, dont ce titre, Wendy.
Elle l'a mis de l'eau.
Elle a mis de l'eau dans tout ça. Elle a mis de l'eau dans tout ça.
Ouais, je préférais Tennessee. Là, c'est le... Alors, celui-ci, c'est un très bel album créé par Mathieu Chédid.
Absolument, composé et coécrite par Mathieu Chédid, qui est paru le 28 mars 2011. Sur le 47e album studio de Johnny. Ce disque arrive juste après les graves ennuis de santé de Johnny Hallyday en 2009, souvenez-vous. Mmh. Et pendant cette période, la présence de Laetitia a été très importante auprès du rocker qui, après avoir été placé en coma artificiel, a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Et pour la remercier, il a demandé à Mathieu Chédid de faire justement cette chanson.
Merci beaucoup de cet hommage à Johnny, les femmes de sa vie à la veille de son anniversaire. C'était le 15 juin, 77 ans, il arrive. Merci monsieur Fabien Lecoeur. On vous retrouve avec grand plaisir, une chanson dans la tête, chaque samedi, chaque dimanche, 18h50. C'est toujours un plaisir.
La semaine prochaine, il y aura la fête des pères. Hein,
je sais que vous êtes déjà
au taquet
dessus. Merci. Et si vous nous rejoignez dans un instant, eh bien, on va se retrouver avec le journal de Sophie Tussaud, car il est 19h.
19h.
C'est le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On aimerait pouvoir ouvrir demain, complètement,
entièrement. On n'a pas travaillé pendant 2 mois et demi. Si on pouvait essayer de faire en sorte de rattraper le temps perdu.
À une semaine du début de la phase 3 du déconfinement, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir. Une prise de parole alors que les appels à alléger le dispositif sanitaire sont de plus en plus pressants.
Le gouvernement lance une nouvelle opération pour lutter contre les discriminations à l'embauche, on en parlait, et l'annonce de nouveaux testings en entreprise.
Ce qu'il faut, c'est que ces entreprises soient sanctionnées pour les discriminations qui ont été établies. Et les sanctions, c'est la sanction judiciaire qui s'impose, parce que la discrimination est un délit pénal.
Les pays européens rouvrent progressivement leurs frontières et dès demain, il sera possible de circuler librement dans l'espace Schengen.
Et puis à une semaine de la reprise de l'entraînement, le PSG peaufine son équipe et choisit de rajeunir ses effectifs.
Leonardo confirme que Thomas Tuchel sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine, peu importe les résultats sur la fin de la Ligue des Champions au mois d'août.
Vous êtes au cœur de ce grand journal, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et je peux vous redire officiellement bonsoir Sophie Tussaud de manière plus distincte. Bonsoir donc. Alors que dans une heure, Emmanuel Macron s'adressera aux Français. Ce sera la 4e fois qu'il prendra solennellement la parole depuis le début de cette crise sanitaire.
Oui, une allocution solennelle au cours de laquelle il va aborder la phase 3 du déconfinement qui débute le 22 juin. Alors que l'économie est à la peine, le président est attendu sur de nombreux sujets. Et ces derniers temps, les appels à alléger le dispositif sanitaire dans plusieurs secteurs se sont multipliés, Caroline Baudry.
Oui, c'est la demande des restaurateurs d'Île-de-France. D'abord, aujourd'hui, seules leurs terrasses sont ouvertes. 1 mètre de distance sépare les tables. Résultat, l'offre est ultra réduite et beaucoup craignent de mettre la clé sous la porte, explique Thibault, gérant d'une brasserie à Paris.
On aimerait pouvoir ouvrir demain, complètement, entièrement. Les gens sont au rendez-vous. On est confronté tous les jours au fait de refuser des gens parce qu'on n'a plus de place. Si on pouvait avoir 40 places en plus, ça aiderait. On n'a pas travaillé pendant 2 mois et demi. Si on pouvait essayer de faire en sorte de rattraper le temps perdu.
Rattraper le temps perdu par les enfants également. Du côté des parents d'élèves, c'est l'incompréhension. Certains sont appelés à retourner travailler, mais impossible de remettre leurs enfants dans les classes limitées à 15 élèves. Selon les derniers chiffres, moins de la moitié des élèves sont retournés à l'école. Pas assez pour la pédiatre Fabienne Cochère.
On pourrait facilement quand même doubler les effectifs. Les mesures de distanciation excessive n'ont pas lieu d'être. C'est surtout l'hygiène des mains. Lavage rigoureux des mains, quand on arrive à l'école, quand on va manger. Les enfants ont vraiment plus souffert du confinement que du coronavirus.
Alors les contraintes qui pèsent sur les plus petits seront-elles allégées au moins sur le temps périscolaire? C'est ce que suggérait il y a quelques jours le président du conseil scientifique en rappelant que les enfants sont finalement peu transmetteurs du virus.
Caroline Baudry, nombreuses sont donc les professions qui attendent des annonces du président comme la police qui a manifesté cette semaine.
Visée par une vague de mobilisation contre le racisme et contre les violences policières, elle attend qu'Emmanuel Macron prenne position sur leur profession également. C'est ce qu'a expliqué ce matin sur Europe 1 Thierry Clerc, secrétaire national du pôle province du syndicat. UNSA Police.
Ça fait maintenant plus de 15 jours que les policiers et les gendarmes, l'ensemble des représentants des forces de sécurité, subissent une campagne de dénigrement complète, totale. Véritablement, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il ne faut pas oublier que nos collègues sont soumis à mobilisation depuis 2015, le terrorisme, la loi travail, les gilets jaunes, des périodes vraiment très difficiles, très compliquées. Voilà, il faut se mettre le confinement également, faire respecter les règles de confinement. Souvenons-nous quand même au mois de mars avec une absence totale de matériel de protection ou en tout cas largement insuffisante. Donc c'est dans ces conditions que l'on travaille et il ne faut pas l'oublier en tout cas parce qu'on nous demande toujours de monter en première ligne. Donc c'est vrai que ce que l'on attend, c'est véritablement un discours fort du président de soutien à l'endroit des policiers, des gendarmes, de l'ensemble des représentants de la sécurité.
Thierry Clerc, invité de la matinale de Bernard Poirette ce matin sur Europe 1.
Et dans ce contexte, le gouvernement décide de relancer les testings pour lutter contre les discriminations à l'embauche.
Julien de Normandie annonce une nouvelle opération pour détecter les entreprises qui, à compétence égale, choisiraient des personnes au nom à consonance française ou bien en fonction de leur adresse pour éviter les quartiers populaires. Une première phase, il y a quelques mois, avait déjà permis d'épingler plusieurs entreprises, Sophie Echen.
Oui, et sur les 40 entreprises testées à ce moment-là, 7 avaient été épinglées, notamment Air France, Renault ou encore Arkema. Le testing, ça consiste à envoyer 2 CV presque identiques, même formation, même niveau d'expérience. La seule différence, c'est l'origine suggérée par la consonance du nom de famille du candidat ou bien par son adresse. Le professeur Yannick Lorty avait mené les recherches lors de cette première campagne.
généralement, on trouve des écarts qui sont de l'ordre de 30%. C'est-à-dire quand le candidat franco-français a 20% de chance d'être convoqué à un entretien d'embauche lorsqu'il envoie sa candidature, le candidat qui signale une origine maghrébine ou une origine africaine peut avoir 14% de chance d'être retenu dans le même processus.
Le ministre de la Ville souhaite donc mettre un terme à ces différences de traitement. Pour Samuel Thomas, délégué général de la Maison des Potes, une association qui lutte contre ces discriminations, c'est une bonne chose à condition qu'il y ait des conséquences concrètes.
Un testing qui aboutit à épingler des entreprises pour discrimination ne doit pas servir seulement à révéler publiquement que ces entreprises ont discriminé. Ce qu'il faut, c'est que ces entreprises soient sanctionnées pour les discriminations qui ont été établies. Et les sanctions, c'est la sanction judiciaire qui s'impose, parce que la discrimination est un délit pénal.
Julien de Normandie a aussi annoncé pour toutes les associations professionnelles la future obligation de suivre tous les 3 ans une formation de lutte contre les discriminations.
Sophie Echen. On se retrouve dans un instant au cœur de ce grand journal avec le déconfinement avant notre édition spéciale entre 20h et 21h. On évoquera les changements attendus aussi au niveau des frontières à partir de demain.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et alors que nous attendons le discours d'Emmanuel Macron ce soir pour cette nouvelle ce nouveau tournant dans le déconfinement, les pays européens, Sophie, rouvrent leurs frontières progressivement.
L'Espagne avance même à dimanche prochain le rétablissement de la libre circulation avec les pays de l'Union européenne, de bon augure, à l'approche des grandes vacances. Et dès demain, Aurélien Fleurot, on va à nouveau pouvoir circuler en Europe.
Oui, à partir de demain, nous pourrons à nouveau circuler librement entre les pays de l'espace Schengen, alors que jusque-là, seuls les travailleurs frontaliers et quelques exceptions avaient le droit de venir en France. Donc, concrètement, chaque résident en provenance d'un pays de l'espace européen qui a lui-même ouvert ses frontières à la France pourra entrer sur le territoire sans restriction. C'est le cas de la Belgique, de l'Allemagne ou de la Suisse. Sauf que certains pays ont fixé leur propre rythme. L'Espagne vient par exemple d'avancer du 1er juillet au 21 juin, donc dimanche prochain, la réouverture de ses frontières avec les pays de l'Union européenne. Des levées de restrictions qui feront du bien au secteur du tourisme évidemment, même si le démarrage sera progressif. Air France ne va par exemple pas augmenter son offre d'un coup dès demain, mais il y aura plus de vols, 11 par semaine en direction de Madrid au lieu de 7 en ce moment. L'accélération de la saison touristique en Europe, ce sera surtout à partir du 1er juillet. Là, les rotations et les destinations vont se multiplier. Ce sera également la date choisie par la Grèce pour à nouveau accueillir des touristes venant d'Île-de-France sans leur imposer 7 jours de quarantaine.
Aurélien Fleurot.
Et alors que la circulation des Européens devient plus fluide, les États membres sécurisent leur approvisionnement en vaccins.
Ils ont conclu hier un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir la fourniture de 300 millions de doses. Un vaccin qui pourrait être disponible à l'automne. Olivier Nataf, le PDG France d'AstraZeneca, était sur Europe 1 tout à l'heure.
D'ici la fin de l'année, la mise en circulation de ce vaccin, si les résultats sont probants à l'automne, puisque la particularité, c'est que nous sommes déjà en phase d'essai clinique chez l'homme. Quand nous sommes chez l'homme, c'est que nous sommes en phase avancée et spécifiquement, nous sommes déjà en phase 3. La phase 3 qui consiste à inclure 10 000 patients volontaires en Angleterre a déjà commencé.
Oui.
D'ici à l'automne, nous aurons 50 à 60 000 patients qui auront été vaccinés et nous aurons des résultats d'efficacité qui seront crédibles.
Olivier Nataf, le PDG de France d'AstraZeneca, invité ce soir d'Europe 1.
Et on va terminer avec un peu de foot. Sophie, à une semaine de la reprise de l'entraînement, le PSG affine son équipe.
Et prépare même déjà la saison prochaine. Le club de la capitale choisit d'ailleurs de rajeunir ses effectifs. Dans les colonnes du JDD, Leonardo, le directeur sportif du club parisien, confirme les départs de Thiago Silva et d'Edison Cavani, Cyril de la Morinerie.
Oui, le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais aussi le célèbre défenseur brésilien quitteront le club à l'issue de la saison. Néanmoins, Paris espère toujours disputer avec eux les 2 finales de Coupe et la Ligue des Champions. Autre annonce, Thomas Tuchel sera bien sur le banc du PSG la saison prochaine, comme l'a confirmé Leonardo à Solène Cherrier, le journaliste du JDD qui l'a interrogé.
Il y a eu des rumeurs au cours des derniers mois, comme quoi Leonardo aurait vu d'autres entraîneurs. Leonardo dément, Leonardo confirme que Thomas Tuchel sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine, peu importe les résultats sur la fin de la Ligue des Champions au mois d'août.
Et en raison de la crise sanitaire, le PSG ne fera pas de folie sur le marché des transferts. Personne ne peut dépenser de grosses sommes, même nous. Ce sera une année de transition sans bling-bling, explique le directeur sportif parisien, qui estime par ailleurs les pertes du PSG à 200 millions d'euros. Paris va un peu dégraisser pour réduire sa masse salariale, tout en s'appuyant sur les 2 stars maison. Neymar, bien sûr, qui vient de rentrer du Brésil, il est à Paris. Et Kylian Mbappé, l'attaquant français, est le futur du PSG, affirme au JDD Leonardo.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.
C'était le journal de Sophie Tussaud qu'on retrouve à 19h30 pour l'essentiel de l'actualité. Alors Valérie Darmon, que donne le temps de ce début de semaine? C'est la dernière semaine de printemps d'ailleurs.
Eh bien, ce lundi, on reste dans la configuration d'aujourd'hui, entre les averses orageuses de l'Est et l'instabilité sur la façade atlantique. Entre les deux, un temps plus sec et du beau temps près de la Méditerranée, grâce au Mistral et à la Tramontane. De mardi à vendredi prochain, les conditions restent instables et nuageuses sur l'ensemble du territoire. Les averses orageuses seront plus fréquentes toujours l'après-midi, parfois accompagnées de chutes de grêle. Les températures, elles sont homogènes entre le nord et le sud, avec une moyenne de 22 à 24 degrés. Il fera plus frais en bord de Manche, avec 19 à 21 au plus chaud de la journée, et sur les régions méditerranéennes, 27 à 29.
C'était la météo de Valérie Darmon. Merci Valérie. Europe 1, 19h13, vous écoutez le Grand Journal du soir avec Wendy Bouchard.
Et nous sommes à un nouveau carrefour de la gestion de crise post-Covid. Analyse et commentaires ce soir de l'ancien directeur général de la Santé de retour d'une mission à Mayotte, William Dab, notre invité sur Europe 1.
18h20, c'est le Grand Journal du soir. Vous êtes sur Europe 1 avec Wendy Bouchard et nos interviews éclairent ce monde qui change.
Avant l'allocution, à partir de 20h d'Emmanuel Macron, la nécessaire adaptation de protocoles sanitaires que certains jugent trop contraignants, voire maltraitants. On l'évoquait à 18h40 avec le pédiatre Robert Cohen. Bonsoir William Dab.
Bonsoir.
Et merci de venir nous apporter votre expertise, vous qui êtes de retour d'une mission à Mayotte en qualité d'ancien directeur général de la santé, d'épidémiologiste. D'abord sur ce point des enfants, est-ce qu'alléger la distanciation pour les plus jeunes d'entre nous, est-ce que revoir les protocoles sanitaires est devenu aujourd'hui une urgence ?
Écoutez, une urgence, je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'on peut avancer pas à pas, commencer par prendre des mesures assez les plus protectrices possibles. Et puis au fur et à mesure où on voit la situation s'arranger, eh bien oui, je pense qu'on peut commencer à les alléger progressivement. Ça me semble assez logique, mais je ne crois pas que ce soit une situation d'urgence. Je pense qu'il faut rester prudent.
Oui.
Et il faut évidemment tout faire pour alléger les contraintes.
Même si la réalité économique supplante aujourd'hui, pour certains en tout cas, les craintes sanitaires, on a des employeurs qui demandent le retour sur site de leurs salariés, eux-mêmes bloqués à la maison pour garde d'enfants. Cette réaction en chaîne pose beaucoup de questions entre cet équilibre économique, cette économie réelle et cet équilibre sanitaire, William Dab. Là, on est au cœur de la gestion de crise, comme vous la connaissez.
Ben oui, tout à fait. Il y a eu... En fait, il y a eu trois grandes contraintes qu'il a fallu essayer de concilier. Il y a une contrainte démocratique avec les élections. Le deuxième tour n'a pas pu avoir lieu. Il y a une contrainte économique et il y a eu une contrainte sanitaire. Il faut se souvenir que le confinement a été ordonné parce que dans trois de nos régions, il y avait une vague qui allait submerger nos hôpitaux. Et de ce point de vue-là, le confinement a marché. C'est pas la seule mesure qui a marché. Il y a eu des évacuations de malades également, oui, vers des hôpitaux moins saturés. Mais enfin, voilà, on est sorti de cette phase-là. Et donc, maintenant, on reste évidemment avec les conséquences économiques qui vont être considérables. Et effectivement, maintenant, je pense qu'il faut avoir ça en tête. La priorité a été donnée à la santé. Bon, c'est très bien, on peut se féliciter d'être dans un pays où ce choix a été fait. Ça n'a pas été le cas de tous les pays. Mais maintenant, je pense qu'il faut effectivement se préoccuper du paramètre économique, d'autant plus que on ne peut pas opposer l'économie et la santé publique. Et si nous faisons face à une immense vague de chômeurs de longue durée,
évidemment,
ceci peut produire des effets au moins aussi importants que ceux que l'on a constatés avec le coronavirus.
Tout cela étant dit, William Dab, on parle beaucoup de post-Covid et c'est d'ailleurs la manière dont j'introduisais notre échange ce soir. Il ne faut pas considérer que les choses sont derrière nous. Il y a encore ces risques qu'il faut apprendre à mesurer en fonction des circonstances et des groupes de personnes exposées.
Écoutez, ce qui est très intéressant actuellement, c'est de regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud,
oui,
où ils vont rentrer en hiver. Et dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, on voit que l'épidémie est en train de reprendre. Ça montre bien que nous ne sommes pas tirés d'affaire.
Mmh.
Et que nous avons jusqu'à cet automne pour se préparer très très soigneusement. à un rebond de l'épidémie. Personne ne sait, personne n'est devin, et personne ne peut savoir si ça va arriver. Mais ce qui se passe dans l'hémisphère sud doit nous rendre extrêmement vigilants.
Vous revenez, je le disais, d'une mission d'un mois et demi à Mayotte pour étudier, comme épidémiologiste, la manière dont les choses se sont passées, ont été gérées aussi sur le terrain. Et vous avez constaté là-bas un déficit de compétences de terrain, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, William Dame ?
Bon, alors Mayotte, c'est un département français qui est quand même très, très particulier par sa localisation géographique, par la jeunesse de sa population, 50% de la population à moins de 20 ans, mais aussi par une immigration difficile à contrôler avec les Comores, qui fait qu'environ la moitié de la population est dans un statut à toute fin pratique quasiment clandestin. Les conditions de vie sont très difficiles. Beaucoup de gens vivent dans des habitats où il y a une densité importante de population. Alors on voit le résultat. Mayotte est certainement le département français où l'épidémie est le plus active. On a eu jusqu'à présent plus de 2200 cas. Quand on rapporte ça à 100 000 habitants, pour vous donner une idée, ça fait 78 cas pour 100 000 habitants, quand en métropole, nous en avons 4,3. Donc la différence est très importante. Alors malgré ça, et du fait de la jeunesse de la population, il y a relativement peu de malades hospitalisés. Il y en a eu environ 350, il y a eu 39 cas qui ont justifié de la réanimation et 28 décès. D'ailleurs, quand on regarde les tranches d'âge concernées, on voit que les cas ont en moyenne 36 ans, que les hospitalisés ont en moyenne, en réanimation, ont 53 ans en moyenne, et les décédés ont 71 ans en moyenne. On retrouve donc très bien les caractéristiques épidémiologiques de cette maladie. Le service de santé des armées est venu renforcer excellemment le seul hôpital de Mayotte, mais il n'y a pas de saturation hospitalière. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la prévention, c'est de tarir la source. Et pour faire ça sur le terrain actuellement, eh bien ça se compte sur moins des deux doigts, des deux mains. Il y a moins de 10 personnes sur le terrain pour faire de la prévention. Elles font un énorme travail.
Oui.
Absolument, absolument remarquable. Mais elles sont en voie d'épuisement, je l'ai dit au ministre. Et il faut absolument les renforcer.
Et ça a été constaté d'ailleurs dès le début de la crise. On a très vite parlé de vaccin, William Dabb, avant de parler de prévention, de toutes ces consignes sanitaires auxquelles nous sommes arrivés au bout du compte, mais qui ont mis du temps à venir.
Ben oui, mais le vaccin, c'est le Graal. J'entendais le patron d'AstraZeneca, il y a quelques minutes, sur votre antenne. Il faut vraiment... Bon, c'est une très grande firme pharmaceutique. Elle va faire ça très, très, très sérieusement. C'est une voie extrêmement prometteuse. Mais voyez-vous, même s'ils sont capables de produire 300 millions de doses cette année, ce qui serait déjà un véritable exploit industriel, ça ne va pas couvrir tous les besoins. Donc il va nous falloir vivre pendant longtemps, un an, 18 mois peut-être, avec cette menace de virus qui ne pose pas tellement de problèmes chez les jeunes, mais quand elle touche des personnes fragiles ou des personnes âgées, on pourrait se retrouver face à une nouvelle vague hospitalière qui poserait d'énormes problèmes.
Et on verra ce qu'en dira dans quelques instants, à partir de 20h, Emmanuel Macron, sur cette catégorie des personnes vulnérables des plus de 65 ans. Faudra-t-il les catégoriser davantage, William Dabb ? En tout cas, merci pour votre éclairage et votre retour d'expérience après cette mission à Mayotte. Merci, c'était un engagement que vous avez tenu sur Europe 1, que de revenir nous en parler. Merci beaucoup, William Dabb.
Je vous en prie.
Justement, on prolongera cette tranche d'infos jusqu'à 21h ce soir avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités qui réagiront à l'issue de l'allocution d'Emmanuel Macron, prévue à 20h. Donc, nouveau discours pour faire le bilan de ces derniers mois et annoncer les mesures de la phase 3 du déconfinement. La rédaction d'Europe 1 se mobilise évidemment. Restez à l'écoute de cette édition spéciale entre 20h et 21h.
Et juste après la pause, un parlementaire au combat pour la cause animale. Loïc Dombreval est avec nous et milite contre la fin des chasses traditionnelles.
19h26, c'est la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Et c'est l'heure de Planète Sauvage, l'actualité des animaux.
Avec un député qui monte au front comme 60 autres parlementaires et qui demande la fin des chasses traditionnelles. Bonsoir Loïc Dombreval.
Bonsoir.
Vous qui êtes président du groupe d'études conditions animales à l'Assemblée nationale, on parle souvent du lobby des chasseurs, très influent dans les assemblées. Loïc Dombreval, c'est donc une réalité qui a des limites aujourd'hui ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, avec une soixantaine de parlementaires, on est bien décidé à faire en sorte que des chasses, qui sont ces chasses dites traditionnelles, qui écrasent, qui pendent, qui collent les animaux, les oiseaux en particulier, qui les arrachent de la terre avec des pinces métalliques, eh bien ces chasses cessent. C'est en tout cas notre combat et on est bien décidé à le mener au bout.
La chasse à glu que vous évoquiez, le déterrage des blaireaux, ce sont des dérogations françaises que vous jugez clairement archaïques et sanguinaires. Loïc Dombreval, pour dire les mots.
Oui, elles sont archaïques et sanguinaires. C'est des choses qui sont absolument horribles à voir. On est un pays développé dans lequel, par ailleurs, on chasse deux fois plus d'espèces et en particulier des espèces menacées qu'en Europe. Ce sont des chasses auxquelles il faut, qui sont aujourd'hui relativement confidentielles et qui existent encore. Elles sont pratiquées par quelques milliers, quelques peut-être petites dizaines de milliers de, de pratiquants en France. Et il faut qu'on y mette fin, en y mettant fin, pas de façon du jour au lendemain, s'il n'est pas la question, mais en se donnant quelques années peut-être, faire en sorte que les quotas de prélèvement, puisqu'il s'agit de ça, de quotas qui sont mis en place et définis tous les ans par arrêté par le ministère, eh bien décroissent de façon rapide pour arriver à zéro le plus vite possible.
Ce qui est intéressant avec vous, Loïc Dombreval, c'est que vous êtes docteur vétérinaire, député de la majorité La République En Marche et qu'Emmanuel Macron a pris à plusieurs reprises position en faveur de la chasse. Vous avez une force d'inflexion avec cette cohorte de parlementaires justement pour plaider pour une chasse, plus moderne, voire modernisée.
Oui, la tribune qui a été rédigée, que j'ai rédigée, qui a été cosignée par mes collègues, ce n'est pas du tout une tribune contre la chasse. C'est une tribune contre ces chasses traditionnelles qui sont des chasses cruelles, archaïques, qui génèrent des traumatismes terribles, de la souffrance chez l'animal, qui, encore une fois, je le répète, qui collent les animaux. Alors, on les passe à l'essence de térébenthine, enfin, qui les écrase avec des pierres. Ces chasses, il faut le savoir, elles sont interdites partout en France, sauf dans des départements dans lesquels elles ont des dérogations.
Bah oui.
Voilà, donc
quel est votre interlocuteur et l'oreille la plus attentive sur ce sujet, au gouvernement ou à l'Élysée ?
Mais moi, je suis convaincu, si vous voulez, que d'abord, quand le gouvernement prend des positions par rapport à la chasse, c'est le gouvernement, pour le président de la République, il ignore ces chasses dites traditionnelles. Il a une position par rapport à la chasse, et moi, encore une fois, il les interdit pas. Moi, j'ai jamais chassé, je ne chasse pas, je ne chasserai jamais. Mais je peux tout à fait concevoir qu'il y ait dans les territoires des chasseurs qui chassent, si tant est que ces chasses soient faites sur des animaux qui ne sont pas des animaux qui ont été créés et produits par l'homme lui-même pour mieux les chasser et les chasser plus facilement. Ça, c'est une petite parenthèse fermée.
Oui.
Mais en tout cas, ces chasses traditionnelles, je pense, ont échappé finalement au scope du président de la République et du ministère de l'Environnement, puisque c'est ce ministère qui en a la responsabilité. Donc moi, je dis que avec une soixantaine de parlementaires, qu'il faut mettre fin à ces chasses qui, encore une fois, sont beaucoup plus cruelles que la chasse, dire, traditionnelle, mais traditionnelle au fusil.
Et quand on parle de respect du vivant et du monde d'après, vous voulez évidemment que ce monde inclue ces interdictions demain et le plus vite possible.
Mais bien sûr, écoutez, on parle tout le temps de biodiversité. Ces chasses sont des chasses non sélectives. Comment voulez-vous être capable de reconnaître, de savoir que le bâtonnet enduit de colle va attraper un oiseau, va coller un oiseau qui n'est pas protégé? Vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Ça veut dire que ces chasses ne respectent pas la biodiversité, elles ne respectent pas les espèces menacées, elles sont dites non sélectives. D'ailleurs, l'Europe a mis en garde la France selon la directive oiseau en disant « Vous ne respectez pas la directive oiseau. »
Merci.
Doit être une chasse non sélective, sélective plutôt, ces chasses sont non conformes à la directive et donc il faut qu'on réagisse à ça. Alors, une directive, c'est un règlement, mais il faut qu'on agisse.
Donc vous attendez la réponse de Didier Guillaume ou d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron?
À
Alors, la réponse, elle doit venir du ministère de l'Environnement, parce que la chaune sauvage est la responsabilité du ministère de l'Environnement.
Très bien. Bon, eh bien, vous nous tiendrez au courant. Loïc Dombreval, député, docteur vétérinaire et président du groupe d'études conditions animales de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
C'était Planète Sauvage, toute l'actualité des animaux, comme tous les dimanches sur Europe 1. Et le grand journal du soir qui se poursuit, Wendy.
Avec l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 14 juin, Sophie Tussaud.
Dans une demi-heure à présent, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Le président va présenter la nouvelle étape du déconfinement qui débute le 22 juin avec notamment la réouverture des restaurants en Île-de-France et un assouplissement des règles dans les écoles. Une nouvelle opération de testing pour lutter contre la discrimination à l'embauche, annonce de Julien de Normandie, le ministre de la Ville. Une première phase avait permis d'épingler 7 entreprises sur les 40 testés. L'Espagne accélère son déconfinement. Elle avance à dimanche prochain la réouverture de ses frontières avec les pays de l'Union européenne, à l'exception de sa frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet comme initialement prévu. À la crainte d'une seconde vague de coronavirus en Chine, Pékin lance une campagne massive de dépistage après la découverte d'un foyer épidémique dans la ville. Autre inquiétude, en Iran, où plus de 100 décès ont été enregistrés en 24 heures. Ça n'était plus arrivé depuis 2 mois. À la police américaine, à nouveau au point pointé du doigt, un suspect afro-américain a été tué à Atlanta lors d'une tentative d'interpellation. Des émeutes ont éclaté dans la ville. La chef de la police en poste depuis 20 ans a démissionné.
Merci Sophie Tussaud. À tout à l'heure pour toutes les infos sur Europe 1. On se retrouve pour le grand débrief de l'actu avec mes invités, la sénatrice Laurence Rossignol, le député Aurélien Taché et la journaliste et spécialiste en communication politique Laetitia Krupa, avant l'allocution d'Emmanuel Macron.
Europe 1. Il est 19h33, le grand journal du soir se poursuit avec vous, Wendy Bouchard. C'est l'heure du grand débrief de l'actu.
Et oui, on refait l'actualité de ces dernières heures, de ces derniers jours, avec mes invités mobilisés sur Europe 1. J'accueille ce soir Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes. Aurélien Taché, député du Val d'Oise. Bonsoir Laurence Rossignol. Pour le groupe dissident LREM, Écologie, Démocratie, Solidarité, bonsoir à vous. Et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste en communication politique. Des attentes ce soir avec vous, évidemment, autour de la parole présidentielle, un exercice ardu pour Emmanuel Macron. La France est inquiète socialement et économiquement. Dans les rues ces derniers jours, beaucoup ont, semble-t-il, oublié les 30 000 morts liés à l'épidémie et les consignes sanitaires. Quand déconfinement rime avec relâchement, on vous écoutera là-dessus aussi. Et puis le choc des cultures dans les manifestations antiracistes, des nobles combats aux extrêmes haineux que vous inspire ce tableau de la France. On va commencer avec ces combats plus ou moins lisibles dans les cortèges hier à Paris, notamment, qui ont suscité énormément de réactions. Les vrais antiracistes républicains et puis ces discours de haine anti-blancs, anti-juifs. Le confinement nous avait fait oublier tout cela, Laurence Rossignol, les extrémistes, les identitaires, les haineux, tout simplement.
Non, le confinement les a fait taire pendant quelques semaines, mais ils sont toujours là. Et ce qui s'est passé hier était un peu à la fois prévisible. Et le pays est sous tension sur tous ces sujets-là depuis déjà de nombreuses années. Et je voudrais dire 2 choses. Premièrement, la manifestation d'hier était une belle manifestation, avec des beaux slogans, des gens mobilisés sur un combat très juste, qui est le combat contre le racisme. Et ce qui a été vu dans cette manifestation, des individus, je ne sais pas combien ils étaient, qui ont créé des slogans antisémites, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et pour autant, ça n'entache pas le reste de la manifestation et des participants. En revanche, il faudrait que les organisateurs des manifestations eux-mêmes prennent en charge l'éviction de ce genre d'individus de leur rang dans une manifestation. Et puis bien entendu, il y avait aussi la provocation de générations identitaires qui étaient sur un toit. Ceux-là aussi doivent être tenus à distance de la vraie société, de celle qui se mobilise, celle qui est généreuse et qui était dans la rue hier, et qui était entaché à la fois par génération identitaire et à la fois par les antisémites.
Oui, mais le fait est que, Laurence Rossignol, ces rassemblements dont vous dites qu'il était beau sur l'essentiel font réagir le gouvernement. Ce matin, Julien Normandie, qui est dans Le Parisien, indique qu'il faut enlever le mot « race » de la Constitution. Je voudrais entendre Aurélien Taché sur le sujet et je vous redonne ensuite, mesdames, la parole. Bonsoir Aurélien Taché.
Oui, bonsoir.
Cette gouvernance à l'émotion, que vous inspire-t-elle aujourd'hui, Christophe Castaner, Nicole Belloubet, puis Julien Normandie ce matin?
D'abord, moi, je voudrais dire quelque chose. ne le prenez pas mal, mais votre introduction m'avait beaucoup inquiété sur la manière dont on allait conduire ce débat. Les vrais antiracistes républicains face à ceux qui seraient... Mais j'étais très heureux d'entendre la sénatrice Laurence Rossignol répondre sur le thème d'une manifestation qui était effectivement très 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 largement antiraciste, une manifestation qui réunissait des jeunesses qui viennent de différents horizons et qui aujourd'hui nous disent de la même manière qu'elles nous ont dit depuis quelques semaines et quelques mois qu'il fallait se lever contre le climat, que nous n'allons plus accepter finalement ces inégalités, cette discrimination, ces discriminations un peu généralisées. Oui, il y a eu des gens qui ont dit sale juif hier. Ceux-là doivent être sortis des manifestations, sans ménagement, et il faut le dire très clairement. Mais il y avait surtout 95% de jeunes qui expliquaient qu'ils n'allaient pas accepter ce que les générations précédentes ont accepté, à savoir que la promesse républicaine ne soit pas tenue en fonction de la couleur de la peau. Et c'est extrêmement important de le rappeler. Donc effectivement, on a pu assister à quelques extrémistes de droite des gens qui ont eu des comportements antisémites. Il faut très rapidement disqualifier ces gens-là. Mais je ne voudrais pas que ça atteigne la beauté du mouvement et la beauté des jeunesses qui marchent depuis quelques semaines.
Très bien,
parce que c'est extrêmement important de le rappeler. Je le crois vraiment.
Et ben merci de cette introduction. Oui. Mais pour réagir à cette annonce de Julien de Normandie sur la suppression de ce mot polémique aujourd'hui, le mot race dans la Constitution.
Supprimer le mot race, supprimer tout ce qu'on veut dans le débat public ne supprimera pas le racisme. C'est un faux débat et c'est une mauvaise réponse. Je dis tel que je le pense. Aujourd'hui, ce qu'on doit combattre, c'est les discriminations dans les faits. C'est finalement l'idée que quand nous ne sommes pas blancs, que quand on est jeune, que quand on est issu d'un quartier populaire, que quand on est issu d'un milieu qui finalement ne permet pas d'accéder à un logement, à un emploi, parce qu'on n'a pas le réseau pour ça, on n'a pas le CV pour ça, c'est ça qui doit être combattu. C'est pas le mot race dans la Constitution. Là encore une fois, on fait du symbolique qui ne changera absolument rien à la vie des gens et des jeunes qui sont dans la rue depuis quelques semaines.
Laetitia Krupa.
C'est une fausse réponse.
Laetitia Krupa.
Moi, je trouve que vraiment, alors là, vous faites de la langue de bois, monsieur, mais alors typique, ce n'est pas du tout une fausse réponse. Vous savez pertinemment qu'il faut nommer les choses. Et le problème de ces manifestations, ce ne sont pas ces milliers de jeunes qui s'unissent sous la bannière de la lutte anti-racisme. Je veux dire, quel Français aujourd'hui, à part les extrêmes, n'est pas pour effectivement une société pacifiée où chacun se reconnaît dans la République française et donc est contre le racisme. Donc, bien sûr que ce message doit être porté haut et fort et doit être dans les faits vérifié, évidemment. Mais les organisateurs de cette manifestation, le comité Adama Traoré, posent problème. Écoutez-les. Enfin, je veux dire, c'est même pas, il faut même pas chercher. Écoutez-les hier. La France, ont-ils dit, c'est légal des États-Unis. C'est faux. Ils veulent aussi importer ce concept de race pour justement articuler le débat sur ces communiqués supposés racisés. Non. En France, on a le principe d'universalisme. Enfin, c'est fou qu'un politique ne puisse pas dire ça.
C'est la base. Non, mais écoutez, excusez-moi.
C'est la base. Mais non, mais c'est quand même le principe du politique de rappeler la base de la République.
C'est Laetitia Krupa qui s'exprime, qui est spécialiste de la communication politique.
Mais non, mais oui, c'est fou de vous entendre dire ça, monsieur. Excusez-moi, ils veulent importer ce concept de race. Et encore une fois, j'ai entendu à Paris, mais aussi à Lyon et à Marseille, des organisateurs, je ne parle pas des milliers de personnes, qui sont là pour manifester pacifiquement, affirmer nous ne sommes pas en démocratie. Voilà le type de message que les organisateurs portent. Alors, or, ce discours est dangereux.
Réaction d'Aurélien Taché avant Laurence Rossignol. Ouais. Cette famille sur cette famille qui s'est approprié ce combat. Oui. Allez-y, Aurélien Taché.
Mais ce qui se passe dans la rue depuis quelques jours et quelques semaines dépasse très largement le combat de la famille Traoré. Et c'est bien là l'échec du socialisme, l'échec de la gauche classique d'entendre ce que vient de dire Madame Rossignol. C'était dommage, ça avait bien
commencé. C'est Laetitia Krupa qui vient de s'exprimer. Oui.
Ah, pardon.
Laurence Rossignol.
Excusez-moi, parce que je pensais qu'on...
Non.
On est au téléphone.
Oui, j'entends.
On est au téléphone.
C'est compliqué pour vous.
Excusez-moi.
C'est compliqué pour vous. C'est Laetitia Krupa, journaliste spécialiste en communication politique.
De m'être trompé là-dessus. Oui. Mais c'est caractéristique en réalité, enfin, ce qu'on vient d'entendre. Il y a vraiment une jeunesse qui a autre chose à dire que... D'abord, ce qui est arrivé à M. Traoré devra effectivement être révélé à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est une affaire judiciaire. Ce qui se passe dans la rue depuis des semaines et des mois, c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Et il ne s'agit pas de faire des comparaisons avec les États-Unis d'Amérique. Il s'agit simplement de se rendre compte que la promesse républicaine n'a pas été tenue depuis 30 ans.
C'est la lisibilité du message qui n'est pas très claire.
De la même manière que sur la question du climat, alors, une jeunesse qui se lève
on
pour
a
nous
entendu
dire
cela,
nous avons des comptes à vous
Laurence
demander,
Rossignol.
À vous élus,
Laurence
à vous
Rossignol.
Responsables politiques. Vous n'avez pas tenu la promesse que vous aviez engagée sur la question de l'égalité.
Vous êtes
la question...
sénatrice de l'Oise. Laurence Rossignol, allez-y.
Oui, là, c'est Laurence Rossignol qui parle, juste pour en attacher.
Oui.
Excusez-moi,
plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il y a nécessité en France d'une mobilisation contre le racisme aujourd'hui ? Oui, incontestablement. Les contrôles d'identité sur les jeunes noirs sont infiniment plus fréquents que sur les jeunes blancs. C'est une réalité. Est-ce qu'il y a des discriminations ? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de mobiliser la société française contre le racisme ? Oui. Pour autant, ce que révèlent ces manifestations, c'est quelque chose que moi, je sais qu'on est un certain nombre à observer et à combattre depuis déjà plusieurs années, c'est qu'il y a des complaisances, des convergences, en particulier avec des groupes qui sont volontiers antisémites. C'est ceux qui étaient là hier n'avaient rien à y faire, mais ils n'étaient pas non plus là totalement par hasard. Il faut quand même avoir ça en tête, c'est qu'il y a eu dès lors qu'on confond islamophobie, racisme,
voilà. Oui.
Religion, oui. Religion,
d'où la
discrimination, à un moment donné, on est dans la confusion. Le rôle du politique et le rôle de ces nouvelles personnalités qui émergent, c'est une nouvelle génération qui est en train de se mettre en mouvement sur ses propres thèmes. Elle va construire sa propre mobilisation et ses propres fondamentaux.
Mais qui doit savoir tenir et départager les causes et les rendre plus lisibles, du moins.
Et il faut savoir avec qui on peut s'allier et avec qui on ne peut pas s'allier. Au même titre que l'extrême droite n'est pas crédible et manipulatrice quand le Rassemblement National devient le parti de la laïcité. On sait bien que ce n'est pas la laïcité qui est en cause pour le Front National, qu'il a toujours combattu. C'est uniquement son racisme anti-musulman. Au même titre, il faut que dans les courants jeunes, antiracistes, féministes, ils sachent aussi se distinguer sérieusement et brutalement de l'antisémitisme qui gangrène un certain nombre de courants aujourd'hui.
Laetitia Coppa,
c'est une ligne de crête qui est extrêmement compliquée parce qu'on voit bien en plus qu'il y a des manipulations et des exploitations politiques de part et d'autre. Mmh. Je pense que le communiqué du préfet de police de Paris n'était pas utile. Sur l'antisémitisme, où on aimerait qu'il en fasse un par jour, à chaque fois qu'il y a un acte raciste qui se passe, on aimerait qu'il fasse aussi un communiqué. Donc tout cela est très incandescent, très manipulé, et il faut avoir vraiment la tête froide quand on discute de ça et des principes.
Alors sur le communiqué du préfet de police, Laetitia Coppa, est-ce que c'est pas bon au contraire de signifier les choses et de...
Oui, mais c'était encore une fois mal... Oui. Voilà, on parle de mots ce soir. Le problème de ce communiqué, c'est quoi ? Il parle d'antisémitisme chez les manifestants. Or, les vidéos montrent que c'est une personne
qui a proféré effectivement
ce sale juif. Ça a été dit, il faut le dire, voilà. Il y a une personne qui l'a dit. Alors, est-ce qu'il était poussé par un groupe ? En tout cas, on ne peut pas résumer avec un communiqué de la préfecture de police qui parle des manifestants dans leur ensemble.
Merci pour ce premier sujet à vous trois, Laetitia Coppa, Aurélien Taché, député du Val d'Oise, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise. Avec à la une en ce dimanche 14 juin, ces attentes du soir, des revendications qui ne seront sans doute pas toutes comblées pour différents secteurs, mais de manière constructive, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez dans quelques minutes du président qui va donc s'exprimer solennellement pour la quatrième fois ? Xavier Bertrand, pour l'opposition de droite, souhaite un rétablissement de l'ordre et de l'autorité. Vous avancez encore des annonces, Aurélien Taché, pour protéger la jeunesse en particulier ?
Oui, c'est ça l'enjeu des prochains mois, le rétablissement de l'ordre et de l'autorité. De quoi parle-t-on ?
De la police qui manifeste face à l'émotion, notamment sous l'Arc de Triomphe.
Il n'y a pas de chaos aujourd'hui qui nécessiterait ce type de discours martiaux. Par contre, il y a une souffrance sociale qui arrive. Ça, elle est bien réelle. Les 500 000 chômeurs qui vont arriver au mois de septembre, ça, c'est bien réel. Les jeunes qui aujourd'hui perdent leur premier stage, leur premier emploi, leur offre d'études pour le mois de septembre, ça, c'est bien réel. Donc moi, ce que j'attends du président de la République, c'est des réponses fortes par rapport à cela. Nous avons aidé les entreprises, il fallait le faire pour qu'elles puissent maintenir l'emploi. Il faut demain leur demander un certain nombre de contreparties par rapport à ça. Plutôt que de reverser des dividendes, il faudra pouvoir embaucher des jeunes. Il faudra pouvoir tenir un certain nombre d'engagements sur le plan écologique. Parce que par ailleurs, les jeunes qui voudront demain travailler le disent. Nous ne serons pas la génération Covid, mais nous ne serons pas non plus la génération des bullshit jobs. Donc il faudra pouvoir faire embaucher ces jeunes, que ces entreprises aient un certain nombre d'engagements sur le plan de l'inclusion, de l'écologie. Voilà ce que nous attendons du président de la République. Il faudra aussi protéger les plus faibles. Donc peut-être étendre le RSA à 18 ans, peut-être étendre la garantie jeune, peut-être payer des stages dès le premier jour. C'est ce que nous demandons avec mon groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Voilà ce que nous attendons réellement du président de la République ce soir.
Voilà,
pas l'ordre et l'autorité et les incantations de la droite de M. Bertrand. Ça fait plaisir à son électorat, mais ça ne changera rien à ce qui va se passer dans le pays dans les prochains mois.
Alors en tout cas, on s'interrogera sur le costume que pourra endosser ce soir le président Macron, Laetitia Krupa, qui choisit l'incarnation présidentielle seule face aux Français, pas le format de l'interview, l'allocution, une fois de plus.
Oui, parce que c'est depuis le début de
dans
la crise,
hein,
il a opté pour ce modèle-là. Moi, tout ce que je sais en tant que spécialiste de la communication politique, c'est que l'exécutif, le gouvernement, sort de cette crise avec une situation très claire, la défiance des Français. Donc l'objectif du président ce soir, avant de rentrer vraiment dans le détail de sa posture, de ses messages, surtout comme l'a dit Monsieur Tachet, qu'on va entrer et qu'on y est déjà dans cette crise économique et sociale qui va être, tout le monde nous le dit, tous les experts, hein, terrible, il faut absolument retisser les liens de confiance avec les Français. Sinon cette crise sera insolvable et la rue va gronder à nouveau. Il n'a pas le choix, Emmanuel Macron. Ensuite, il doit pour cela apaiser le débat, ça c'est vraiment fondamental ce soir, crever l'abcès de toutes ces poches qui se sont faites dans la société et surtout nous dire comment on va débuter ce début de paix, puisque souvenez-vous Wendy, il avait commencé sa première allocution avec ce mot guerre,
oui,
martelé
bien sûr,
à 6 reprises. Donc aujourd'hui, il doit incarner la fin de la guerre.
Oui.
Mais comment arriver dans cette fin de guerre avec ce tsunami économique et social qui attend la France, c'est tout l'enjeu.
Complètement, avec un plan de relance justement que vous attendez, vous Laurence Rossignol.
Moi j'aimerais bien déjà que le président de la République soit un peu constant, qu'il y ait un peu de continuité. Parce qu'on a un président qui tout le temps change de rôle, change de costume, change de décor. On a eu le président à la guerre, après on a eu le président qui se réinvente. Ce serait bien qu'il y ait de la continuité dans toutes ces interventions parce que ça rassurerait peut-être les Français. Après, moi je suis plus modeste peut-être que les deux autres intervenants. D'abord, je souhaiterais que le président de la République dise qu'on n'est pas encore dans l'après-Covid.
Mm-hmm.
Je sais qu'il en a très envie. Beaucoup de gens en ont très envie qu'on soit déjà dans l'après-Covid.
Et vous craignez-vous le relâchement ? Vous craignez cela ?
Je crains le relâchement. Je l'observe. J'observe ce qui se passe dans les pays qui ont eu des vagues avant nous. Et on voit que le virus n'est pas totalement éradiqué, loin de là. Les Français ont appris des choses pendant le confinement. Ils ont appris une prévention sanitaire. Ils ont appris la prévention sanitaire. Il faut qu'il continue d'agir de la même façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très bien qu'on n'oublie pas.
On vous perd un petit peu, Laurence Rossignol. Est-ce que vous pouvez changer d'espace sur la deuxième chose ? C'est mieux comme ça, voilà.
Donc, la deuxième chose, c'est que là encore, je voudrais de la constance, de la continuité. On a applaudi les soignants pendant tout le confinement, tous les soirs. On a beaucoup parlé de tous ces métiers, ce qu'on appelait les premiers de corvée.
Oui.
La crise sanitaire a révélé toutes les inégalités qui n'étaient pas forcément très visibles dans notre pays ou que tout le monde ne voyait pas. Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il nous dise comment il va résorber toutes les inégalités qui sont apparues pendant la crise et dans quel projet collectif il va le faire aussi. Parce que j'entends bien qu'il faut, maintenant c'est les jeunes, hier c'était les hospitaliers, les caissières, maintenant c'est les jeunes, le chômage est devant nous, incontestablement, mais il faut aussi songer à tous ceux qui ont porté le pays pendant le confinement et pendant la crise sanitaire. Et dans ce pays, c'est quand même étrange, plus on est utile, moins on est payé. Et comment on résorbe ce paradoxe ?
Oui, écoutez, Laurence Rossignol et Aurélien Taché nous livreront aux invités qui seront présents après l'allocution vos attentes et on verra si vous avez été entendu pour certaines d'entre elles. Laetitia Krupa, en conclusion.
En conclusion, il doit donner le nouvel élan qu'il nous avait promis, rappelez-vous, à sa dernière allocution. Il avait dit qu'il fallait se réinventer, lui, en premier.
Oui.
Donc, encore une fois, on est d'accord que c'est une question de posture et c'est un message présidentiel, mais derrière, il y a des faits, on attend des mesures concrètes. Emmanuel Macron, il a toujours un peu tendance à verser dans la grandiloquence qu'il s'est manié avec, avec beaucoup de tact. Là, aujourd'hui, je crois que son Premier ministre lui a montré un peu le chemin.
Oui.
Voilà, hein, Édouard Philippe l'a fait du concret, des mesures concrètes.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce débrief de l'actualité sur Europe 1. Retrouvez en podcast et à partager avant donc cette édition spéciale 20h-21h. Laurence Rossignol était avec nous, sénatrice de l'Oise, Aurélien Taché, député du Val d'Oise et Laetitia Krupa. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.
Et dans un instant, Wendy, on écoute Le Monde Changé avec François Claus.
Oui, qui s'interroge justement sur le costume que pourrait revêtir ce soir Emmanuel Macron. À tout de suite.
19h53, vous êtes toujours sur Europe 1, la suite du Grand Journal du soir, avec l'air du temps.
Les temps changent. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé, ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Les mots et l'analyse que vous attendez en conclusion de cette Europe Weekend. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Wendy. C'était le 16 mars dernier, une éternité. Face à un pays abasourdi, au premier jour du confinement, le tempétueux jeune chef d'État anti-système revêtait un uniforme de général 5 étoiles.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir.
Ou comment, avec des accents gauliens de boss d'une start-up nation, on se mue en père de la nation. Un mois plus tard, le 13 avril, face à un pays désemparé, inquiet, voilà notre général qui se mue en commandante, brandissant l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme.
Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe.
Ou comment le jeune banquier d'affaires aux accents mitterrandiens se mue en révolutionnaire de 1789. Alors question Wendy, dans quelle tenue nous apparaîtra-t-il dans quelques minutes? La tenue du chef de troupe mobilisateur s'effiloche sous l'effet de la pénurie puis du surplus de masques. La tenue du révolutionnaire se déchire inexorablement sous l'effet des plans sociaux. Le en bras de chemise plutôt qu'en costume face aux gilets jaunes puis au monde de la culture n'a pas vraiment eu l'effet escompté. 3 mois de confinement plus tard, 30 000 morts plus tard, plusieurs centaines de milliers de chômeurs plus tard, la cote de popularité stagne en dessous des 40%. Quelle tenue endosser pour redonner un avenir à une jeunesse qui arrive sur le marché du travail, dynamitée dans ses rêves par l'une des plus graves récessions économiques de l'histoire? Quelle tenue endosser pour assurer des aînés, selon le nouveau terme consacré, abandonnés sur le bord de la route? Quel costume enfiler pour affronter une jeunesse des banlieues et d'ailleurs qui soudain se lève genou à terre? Comment redevenir le réformateur triomphalement élu hier, tout en assumant le rôle protecteur que tout un pays réclame aujourd'hui? Comment incarner une vision, tout en assumant l'intendance quotidienne face à une administration débordée? Comment échapper à cette malédiction du président qui a frappé ses deux prédécesseurs, l'un trop vibrillonnant réformateur, l'autre trop banalement normal, dans les bras desquels un pays rétif et versatile s'était pourtant jeté pour mieux les rejeter tout aussi rapidement? Peut-être en enfilant un autre costume, celui de l'un de ses mentors dans l'histoire. Un costume de tigre, celui d'un politique qui en son temps bouscula le système, celui d'un militaire qui en son temps redressa l'armée, Georges Clemenceau. Ébranlé par la crise inédite que nous venons de traverser, celui qui voulait bousculer la table a visiblement reçu le message.
Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier.
Faudrait-il pour cela, Weddy, qu'il applique l'un des adages préférés de son mentor Clemenceau? Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, Il faut avoir le courage de le faire.
Eh bien, François Claus, sur ces mots, nous attendons de savoir quel costume revêtira dans quelques instants le président Emmanuel Macron. Dans l'air du temps, nous vous retrouvons dimanche prochain. Merci François.
À dimanche prochain, Wendy.
A tout de suite, avant l'allocution que nous suivrons en direct d'Emmanuel Macron, édition spéciale jusqu'à 21h à suivre sur Europe 1. Soyez au rendez-vous.